Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On écoute le monde changer. Europe 1, il est 7h01. Le journal avec Hélène Zélani.
On a manqué de petits détails, peut-être un peu de la chance. On a absolument raison d'être fiers de notre parcours.
Les joueurs du PSG auraient pu gagner, c'est en tout cas l'avis de leur entraîneur Thomas Tuchel. Manque de chance, manque d'efficacité, mais à la fin, c'est le Bayern qui gagne la Ligue des Champions 1-0. Grosse déception pour les supporters, notamment pour ceux qui avaient fait le déplacement jusqu'à Lisbonne. Les joueurs ont tout de même pris le temps de les saluer. Et pendant que les Parisiens pleurent, les Marseillais jubilent. Explosion de joie hier soir sur le Vieux-Port. Dans ce journal également, enquête sur la pénurie de matériel médical. Alors que les cas de Covid repartent à la hausse, gants de protection, masques FFP2. Et puis nous vous emmènerons en Lituanie, à la frontière biélorusse, avec notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini, plus de 30 km de chaîne humaine pour soutenir les opposants au président Loukachenko.
Juste après ce journal, dans quel état se trouve l'économie en France et dans le monde en cette rentrée? La réponse dans l'éclairage éco de Nicolas Barré. 7h15, retour sur le coup d'état au Mali, le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin, 7h20. Avant de retrouver un nouveau rendez-vous d'histoire, c'est à 7h25, Stéphane Bern et l'origine de l'expression tambour battant. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes bien sûr sur Europe 1. Europe Matin, il est 7h02.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Un mot, trois syllabes pour résumer la soirée d'hier. Déception. Les joueurs du PSG rêvaient de soulever enfin le trophée de la Ligue des Champions. Et bien, c'est raté. Ils se sont inclinés hier soir face au rouleau compresseur du Bayern Munich 1-0. But de Kingsley Coman, qui, ironie de l'histoire, a été formé au PSG.
Déception, bien sûr, des supporters et en particulier de ceux qui avaient fait le déplacement jusqu'à Lisbonne. Ils ont patiemment attendu devant l'hôtel des joueurs. Simon Rubin était à leur côté.
À la descente du car, près de deux heures après le match, les yeux de Neymar sont encore rougis par les larmes. Ses coéquipiers tête basse le suivent. Même déception du côté des supporters restés pour remercier leurs joueurs et qui trouvent dans leur chant le réconfort qu'il faut pour vivre un soir de désillusion. Les joueurs prennent alors quelques minutes pour saluer les fans. Évidemment, c'est la déception qui prédomine chez les supporters. Une déception à la hauteur des espoirs placés dans cette finale.
Un peu dégoûté, on y a cru toute la journée. On pensait que c'était la bonne année pour vivre les 50 ans en fête. Mais bon, malheureusement, ce sera pour une prochaine fois.
On avait tellement d'attentes et le parcours a été beau. C'est juste la déception l'emporte.
Là, on est un petit peu en dépression quand même. Faut dire la vérité. Et bon, comme d'hab, hein, dès qu'on y croit trop, on passe pas.
Mais l'abattement sera de courte durée. Tous les supporters ici en sont convaincus. L'heure du PSG viendra. Un jour, leur club sera champion d'Europe. Lisbonne, Simon Rubin, Europe 1.
Espoir que partage d'ailleurs Emmanuel Macron hier soir sur Twitter. Il écrivait « L'heure de la victoire viendra pour le football français ».
Cette victoire, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, l'a espéré jusqu'à la dernière minute au coup de sifflet final. Il était partagé entre déception d'avoir perdu et fierté du parcours de ses joueurs.
Oui, je suis très fier. J'ai déjà dit l'équipe que je suis fier. C'est toujours le sentiment plus pire de perdre. Mais j'ai vu une finale avec deux équipes qui ont absolument mérité de jouer cette finale-là. C'était un parcours avec beaucoup d'émotions. Et on a eu toutes les possibilités de gagner aujourd'hui. On a manqué de petits détails, peut-être un peu de la chance, un peu d'efficacité. On a absolument raison d'être fiers de notre parcours.
Thomas Tuchel avec Julien Froment. Du côté des Parcs des Princes, grosse tension entre des groupes de jeunes et la police. D'un côté, pétards et feux d'artifice. De l'autre, gaz lacrymogène. Des incidents aussi dans le secteur des Champs-Élysées. Voitures incendiées, vitrines cassées, magasins vandalisés.
Et c'est encore un bilan provisoire, mais 83 personnes ont été arrêtées. Chaude ambiance aussi. À Marseille, pas exactement pour les mêmes raisons.
Et oui, les supporters de l'OM ont, eux, explosé de joie après la défaite de l'ennemi juré parisien. Marseille reste bien le seul club français vainqueur de la Ligue des Champions. Écoutez le reportage sur le Vieux-Port, signé Caroline Baudry.
Au coup de sifflet final, la joie envahit les rues. Pétards, fumigènes, feux d'artifice, l'ambiance est survoltée. Sur le Vieux-Port, les supporters marseillais font hurler les scooters pour célébrer la défaite du PSG.
Incroyable, on attendait que ça à Marseille de toute façon. On attendait que Paris perde. Bon, après, c'était, moi, j'étais plutôt confiant. Même si on a eu peur en première mi-temps, deuxième mi-temps, ils n'ont pas touché le ballon.
Le Bayern, ils ont bien fait. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire.
Ici, des maillots parisiens sont jetés à terre. Ceux du Bayern fièrement endossés pour ce but marqué en deuxième mi-temps par le Français Kingsley Coman.
But de la tête, magnifique. On ne pensait pas que ça serait 0 à 1 quand même pour une finale. On s'est dit on aurait plus de buts, mais bon, le foot a parlé, le talent a parlé.
C'est comme si on l'avait gagné une deuxième fois, raconte un supporter de l'OM. Ce soir, son club reste le seul club français à avoir soulevé la coupe. Alors les Marseillais montrent fièrement leur maillot étoilé.
Marseille, bien sûr. À jamais les premiers, bien évidemment.
Une soirée déchaînée, ponctuée de gros mouvements de foule et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Marseille, Caroline Baudry, Europe 1.
Voilà, ce n'est pas demain qu'ils vont se réconcilier, les Parisiens et les Marseillais. Ce matin, en tout cas, ce sont les pleurs de Neymar qui font la une de l'équipe avec ce titre inconsolable en Allemagne. On jubile, évidemment. Le rêve du triplé du Bayern est bien réel, titre le journal Bild, sous-entendu la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions.
Et ce matin, nous revenons bien sûr longuement sur ce match, le jeu avec Virginie Fulpin, l'édito sport dans une dizaine de minutes. Et puis, l'enjeu, les enjeux. Michel Denisot, invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1 à 7h40 tout à l'heure. Je le rappelle, le seul président à avoir remporté une Coupe d'Europe avec le PSG. 7h07 sur Europe 1, c'est un chiffre qui augmente chaque jour. Celui des nouveaux cas de Covid, près de 5000 ces dernières 24 heures.
Et d'ailleurs, hier soir, 274 personnes ont été verbalisées pour non-port du masque dans un bar près des Champs-Élysées au moment du match. L'établissement a d'ailleurs été évacué. Le personnel médical espérait en avoir terminé avec les problèmes de pénurie de matériel. Et pourtant, selon votre enquête, Victor Delande, il y a déjà une certaine tension sur plusieurs fournitures.
La grosse inquiétude concerne actuellement les gants de protection indispensables pour les préleveurs qui réalisent des tests PCR. Avec près de 700 000 tests par semaine, la demande française a explosé. Sauf qu'il existe actuellement une pénurie mondiale. Tous les pays en commandent en même temps. La matière première vient même à manquer pour la production. Côté masque, la France a passé des commandes massives depuis le mois de mars. 4 milliards au total. Mais les stocks arrivent au compte-gouttes chaque semaine. À tel point que dans les hôpitaux, les FFP2 se font rares, comme l'explique Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers.
Nous sommes déjà en tension autour d'une boîte de masques dans les services où on peut être amené un jour donné à être en rupture et à aller en mendier quelques-uns dans le service d'à côté. Donc on est très inquiet si très rapidement on arrive sur une deuxième vague. Ça veut dire qu'en quelques jours on se retrouve de nouveau avec des sacs poubelles sur le dos.
5 entreprises françaises viennent d'être sélectionnées pour concentrer leur activité sur la matière première qui servira à la fabrication de masques chirurgicaux et FFP2. L'objectif est clair, sécuriser une partie de la production en France pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'au mois de mars.
Une enquête signée Victor Delande.
C'est une lettre d'une incroyable violence qu'a reçue le nouveau maire de Givors, une ville de 20 000 habitants. C'est entre Lyon et Saint-Étienne. Une lettre anonyme, bien sûr.
Et elle a profondément choqué Mohamed Boudjelaba. Il a porté plainte et a d'ailleurs reçu le soutien du gouvernement. Un maire qui dénonce des propos menaçants, calomnieux et surtout racistes.
Monsieur le maire, sale bougnoule, on va te crever, on va te griller comme une merguez, ton habitation ça va faire boum, sur 4 pages, c'est un vomi sans nom. Il y a des gens de l'ombre qui attisent la haine, qui n'acceptent pas que je sois maire. Je suis un citoyen français, aujourd'hui qui a des responsabilités politiques. Quand vous essayez tous les jours au quotidien de vous battre pour que les rues soient propres, pour embellir la ville, pour essayer de ramener des entreprises dans votre ville, et puis que vous tombe un courrier comme ça dégueulasse, les bras m'en tombent, et je me dis, et ça ne fait que cette semaine que tu es aux manettes. Est-ce que j'ai envie de tenir 6 ans? Je sais pas. C'en est flippant de se dire, il y a des gens ou une personne qui a pris le temps de faire ça et mon action politique, on peut pas la mesurer. Ça fait 7 semaines que je suis là. Je pensais pas que ça allait arriver si tôt, quoi.
L'incompréhension, le dégoût du maire de Givors, Mohamed Boudjelaba, au micro de Diane Berger. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, précise qu'une enquête est ouverte pour retrouver l'auteur de cette lettre.
La mobilisation continue contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Les manifestants contestent toujours le résultat de l'élection du 9 août. Ils étaient des dizaines de milliers mobilisés hier dans la capitale.
Et cette fois, ils ont reçu symboliquement le soutien de leurs voisins, notamment en Lituanie, qui abrite une forte communauté d'opposants en exil. Ils ont formé une longue chaîne humaine que l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini, a pu suivre.
Sans aucun signal, comme si c'était un devoir, les doigts des manifestants s'entrecroisent au moment où résonne le chant du changement. Sur 35 km, les mains s'unissent jusqu'aux portes de la Biélorussie, là où se trouve Sabina, tout près du pays qu'elle a quitté il y a un an, si loin des opposants de Minsk dont elle loue le courage.
J'espère qu'ils sentent notre soutien, qu'ils sentent qu'on les aime si fort, qu'on apprécie tellement ce qu'ils font. J'ai beaucoup d'admiration, qu'ils continuent à manifester. Tous les jours, je prie pour eux pour qu'ils trouvent la force de continuer.
Les opposants biélorusses en exil sont largement soutenus par les Lituaniens. Carolina n'hésite pas un instant lorsqu'il s'agit d'agiter le drapeau rouge et blanc de ses voisins contestataires.
Il y a 30 ans, notre pays était dans la même situation. Et je sais ce que les gens ressentaient à l'époque et je comprends ce par quoi ils sont en train de passer. Donc il n'y a pas d'autre choix que de les soutenir.
Juste à côté d'elle, un designer biélorusse souhaite s'exprimer, mais finalement les mots lui manquent pour expliquer sa présence. Comme un fond de culpabilité de vivre libre à quelques encablures de certains de ses proches gouvernés par la peur. Medinka, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et la rentrée, c'est dans une semaine. Jean-Michel Blanquer consulte tous les syndicats d'enseignants et de chefs d'établissement inquiets d'une reprise en pleine épidémie, bien sûr, du Covid-19.
Oui, une rentrée le 1er septembre un peu particulière qui sera maintenue. Le ministre de l'Éducation l'a confirmé. Covid ou pas, les enfants vont donc retourner à l'école et il faut acheter les fournitures. Mais ça n'est pas tout à fait comme les autres années. Reportage d'Élise Dangean.
Un sac, un table. Un agenda, des trousses.
Léo et Maë font l'inventaire de leurs achats et cette année, quasiment pas de stylo ou de gomme dans le caddie. Ceux à la maison sont toujours en bon état. C'est l'avantage de 2 mois d'école à distance, selon Laetitia, la maman.
C'est justement mon fils qui me dit qu'il n'a pas besoin de ceci ou de cela, donc c'est très bien, on garde des choses de l'année dernière.
En revanche, indispensable à renouveler, l'agenda.
Le bleu, c'est trop beau, maman.
Mais le bleu coûte plus cher. Cette année, Déborah doit réfréner sa fille, Laura, qui entre en classe de CE2. Budget maximal à respecter, 350 euros pour les 3 enfants hors habillement.
On a fait un petit peu de négociations par rapport au prix, plus que les années précédentes.
Budget plus serré pour les uns, incertitude pour les autres. Au rayon dessin, Pascal s'interroge sur l'utilité de toutes ces fournitures pour sa fille en 4e.
On s'attend à ce que les cours à distance reprennent. Mais c'est sûr que si l'année devait se passer comme les 4 derniers mois, on n'a pas besoin de tout ça.
Seule certitude, à une semaine de cette rentrée si particulière, les enfants ont hâte de reprendre l'école, mais surtout de retrouver les copains.
Et pour nous, l'école, elle a repris ce matin.
C'est
voilà.
La rentrée pour nous ce matin sur Europe 1. Hélène Zélani, vous avez fini les courses de rentrée déjà?
Oui, non, je les ai c'est fait avant de partir en vacances. Oh comme ça, je suis tranquille.
Oh mon Dieu, elle est studieuse, elle est exemplaire. Elle est exemplaire. Certains n'ont pas commencé, ils sont en train de paniquer à l'écoute d'Hélène Zélani. Tout va bien. Merci Hélène. C'était le journal de 7h à 7h30 tout à l'heure. Un nouveau journal sur Europe 1, bien sûr, avec Sophie Echen. Il est 7h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Vous l'aurez compris, nous revenons longuement ce matin sur la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. L'édito sport de Virginie Fulpin dans moins de 10 minutes maintenant. Et l'ancien président du PSG, Michel Denisot, dans ce studio à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré. Dans quel état se trouve l'économie en France, dans le monde, en cette rentrée? À quoi s'attendre d'ici à la fin de l'année? Réponse dans quelques secondes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h14 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Et puis, vous savez quoi? Bon courage. Si vous reprenez le boulot ce matin, je sais que c'est le cas de nombreux Français. Nous reprenons le chemin du studio et nous retrouvons une voix que vous connaissez, Nicolas Barré. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos, votre éclairage éco tous les matins à 7h15. Le plan de relance attendra une semaine de plus. Le gouvernement l'a annoncé ce week-end. Ce n'est pas une bonne nouvelle, car la reprise dans cette rentrée s'annonce particulièrement poussive.
Oui, vous savez Mathieu, si on refait le film des derniers mois, on peut retenir 3 choses. 1, la France est une des économies européennes qui a le plus souffert de la crise du Covid, notamment parce que le confinement a été plus strict et plus long qu'ailleurs. En mars-avril, on a plongé plus que les autres. 2, après le confinement, c'est assez logique, le rebond a été plus fort, on l'a vu en juin, où la consommation a même dépassé son niveau d'avant-confinement. La voiture qu'on voulait acheter en mars ou avril, eh bien, on l'a achetée en juin. Mais 3, et c'est la leçon de cet été, ce rebond est déjà en train de s'essouffler. On le voit dans toute l'Europe, mais c'est particulièrement le cas en France.
Et pourquoi ?
Eh bien parce qu'en fait, la crise du Covid a mis en relief une faiblesse de fond de notre économie. Nous n'avons pas assez de secteurs forts. Or, manque de chance, nos 2 plus forts qui nous permettent en temps normal de résister sur les marchés extérieurs, à savoir l'aéronautique et le tourisme, sont les 2 secteurs qui ont été le plus touchés par la crise. C'est pas un hasard, par exemple, si le géant de l'hôtellerie français Accor a réfléchi cet été à se rapprocher de son concurrent intercontinental. Pourquoi ? Parce que le secteur est sinistré, les hôtels sont à moitié vides et tant que l'épidémie est là, les touristes ne reviendront pas. Quand ces deux secteurs, vous le voyez bien, l'aéronautique et le tourisme sont au tapis, eh bien c'est toute l'économie française qui souffre.
Mmh. Cela dit, les Français ont beaucoup d'épargne, Nicolas, et le plan de relance qui arrive va soutenir l'activité.
Alors c'est vrai, les Français ont accumulé près de 100 milliards d'euros d'épargne et si la confiance revient, bon, ils vont consommer, on peut l'espérer. Mais encore faut-il savoir faire passer les bons messages et redonner confiance alors que l'environnement reste anxiogène. Le rôle des dirigeants politiques à cet égard est crucial. Je vous prends un exemple qui m'a vraiment frappé ce week-end, ça se passe aux États-Unis. Joe Biden, le candidat démocrate, a dit que s'il était élu président, il n'hésiterait pas à fermer, il a dit « shut down » l'économie américaine si l'épidémie ne se calme pas. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Ça plombe le moral alors qu'on ne sait pas du tout comment va évoluer l'épidémie. Sans confiance, c'est sûr, la reprise n'aura pas lieu. Le plan de relance, ça sert aussi à cela. C'est dommage qu'il ait été reporté. Car la confiance, vous savez, c'est une alchimie qui tient à pas grand-chose.
Merci Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, que l'on retrouve désormais tous les matins, juste après le journal de 7h, 7h17. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour à tous, bonjour Mathieu.
Le regard international de Vincent Hervouet. L'Afrique s'apprête à entériner le coup d'État au Mali. Le putsch militaire avait été condamné par tout le monde, l'ONU, les Américains, les Européens, l'Union africaine, les pays voisins. Mais 6 jours après, on cherche un exil pour le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, et on se dit que d'un mal pourrait sortir un mieux.
Oui, Mathieu, rangez votre mouchoir et arrêtons de pleurer sur le sort de l'ex-président Ibeka. Bah, d'abord, il va bien. Les premières heures ont été un peu rugueuses, c'est vrai, mais désormais, les militaires le traitent comme un grand convalescent. C'est pension complète en première classe. Il téléphone, il a appelé le président du Tchad, le représentant de l'ONU, il a reçu la délégation envoyée par les pays voisins. Et comme d'habitude, il fait semblant d'être président. Depuis 60 ans, les militaires ont renversé tous les présidents du Mali, à une exception près, mais ça se passait moins bien. Ils croupissaient au moins quelques années en prison avant de profiter de leur fortune si mal acquise. La chute d'Ibeka ressemble plutôt à une mise en retraite anticipée avec pot de départ et calcul d'indemnité. Ibeka, c'est le contraire de Loukachenko, le tyran du Bélarus, qui s'est exhibé hier en gilet pare-balles, le fusil d'assaut à la main, l'insulte aux lèvres, prêt à se battre dos au mur. Ibeka n'est pas un féroce et c'est d'ailleurs le problème.
C'est un problème ?
Ben oui, parce qu'il ne s'est pas battu pour réformer l'État. Depuis 7 ans, il n'a rien fait au nord, chez les Touaregs. Ailleurs, il n'a rien fait non plus. Il a abandonné le centre du Mali aux milices ethniques. C'est un roi fainéant qui a flotté sur un pays à la dérive, laissant les djihadistes proliférer, les armées étrangères s'enliser, la corruption exploser au Mali. La première dame et son fils en ont d'ailleurs bien profité. Et du coup, son effacement est peut-être une chance à saisir, puisque les palabres sont en cours avec les pays de la région, avec la junte qui veut mettre en place un régime de transition, avec la société civile. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais d'enfin obtenir l'ouverture de vraies négociations avec les Touaregs et avec les Peuls, avec ces Maliens qui s'estiment maltraités. Leur colère et le ressort de la violence, c'est sur elle que prospèrent les chefs djihadistes, le Touareg Iyad Agali et le Peul Amadou Koufa. Alors ce coup d'État ne sera pas un coup d'épée dans l'eau et Ibeka pourra aller se faire oublier aux Émirats. Bon voyage Ibeka.
Merci beaucoup Vincent Hervouet de votre éclairage international tous les matins dans Europe Matin.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à suivre votre nouveau rendez-vous, c'est tous les jours à 7h25. On va vous parler d'histoire avec Stéphane Bern. Mais tout de suite, Neymar, Mbappé sont-ils responsables de la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions ? C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1. Quelques nouveautés, vous allez l'entendre tout au long de cette matinée. Et puis quelques rendez-vous que vous connaissez déjà très bien, notamment l'édito sport avec Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pas beaucoup de surprises sur le thème ce matin Virginie.
J'ai pas réfléchi très longtemps.
Le PSG, mais vous vous êtes couché tard cela dit. Le PSG attendra pour remporter sa première Ligue des Champions. Les Parisiens ont été battus 1-0 par le Bayern Munich en finale hier soir à Lisbonne. Et pour vous, ce sont d'abord les stars Neymar et Kylian Mbappé qui ont fait perdre le PSG.
On pensait qu'ils seraient les sauveurs, vous voyez, qu'ils étaient taillés pour cette finale. C'était leur rendez-vous. Oui, mais un rendez-vous raté dans les grandes largeurs. Hein. Pour moi, oui, ils sont les principaux acteurs de la défaite parisienne. Neymar est passé complètement au travers de sa finale. Alors Kylian Mbappé un peu moins, hein, mais il n'a jamais trouvé de solution face à Manuel Neuer. Le gardien du Bayern va sûrement lui faire faire des cauchemars pendant un petit moment d'ailleurs. Il lui a mangé le cerveau jusqu'à le rendre totalement inoffensif. Parce que des occasions, il en a eu Mbappé. Le PSG a su se les créer. On ne va pas tout voir en noir d'un seul coup. Cette défaite n'est absolument pas honteuse. Les Parisiens ont regardé le Bayern Munich les yeux dans les yeux pendant la première mi-temps. C'est déjà beaucoup. Mais normalement, des joueurs du niveau de Mbappé et Neymar, ils sont là pour avoir ce petit truc en plus qui fait basculer une rencontre. C'est pour ça qu'ils ont été recrutés à prix d'or, hein, pas pour gagner une Coupe nationale. Le PSG n'a pas besoin d'eux pour ça. Et là, on a vu ces cracks se transformer en petits garçons effacés. Je comprends les larmes de Neymar à la fin. Il se rend forcément compte qu'un joueur de sa trempe ne peut pas rater une finale de Ligue des Champions comme ça. Pas lui. J'ai envie de dire qu'il n'a pas le droit. C'est presque une faute professionnelle.
Ah, c'est quand même surtout le Bayern Munich qui a rendu ses stars parisiennes inoffensives.
Oui, évidemment, mais pas seulement. Oui, le Bayern a l'habitude de ses rendez-vous. Oui, cette équipe a marché sur toute l'Europe cette saison. Et oui, surtout, elle a une force collective impressionnante, ce que Paris n'a pas eu hier soir. C'est rageant parce que cette force collective, on l'a vu au PSG en demi-finale notamment. Kylian Mbappé et Neymar semblaient avoir compris que c'était ensemble, tous ensemble, qu'ils pouvaient gagner. Mais ce qui est possible contre Leipzig ne l'est pas contre un grand d'Europe. Et hier soir, en deuxième mi-temps, il n'y avait plus de collectif, plus d'organisation. Les joueurs essayaient juste de trouver Neymar et Mbappé dès qu'ils réussissaient à avoir le ballon. Oui, sauf que les stars n'étaient pas plus là que l'esprit d'équipe. Donc, la mission était impossible. À quoi ça sert d'avoir autant investi pour des joueurs de ce niveau si c'est pour voir leurs ombres en finale et se faire punir par un joueur formé au club, hein, parce que oui, le buteur, Kingsley Coman, a été formé à Paris. C'est souvent cruel, l'ironie du sort. Alors on ne va pas tout jeter à la poubelle, loin de là. Hein, le PSG a beaucoup appris à Lisbonne, mais il y a encore des leçons à retenir, même quand on s'appelle Neymar, surtout quand on s'appelle Neymar. Première leçon, être fort avec les faibles et faible avec les forts, ça fait pas partie du contrat.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, l'édito sport que vous attendez tous les matins. C'est sur Europe 1, 7h24. Vous êtes sur Europe 1 et tous les matins cette année, juste après l'édito sport, on va retrouver un nouveau dans l'équipe. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu Miller, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu d'abord.
Merci.
Au nom
de
toute l'équipe de la matinale d'Europe 1, soyez le bienvenu parmi nous. Chaque jour, vous allez nous parler d'histoire, Stéphane.
Oui, absolument. Une expression, un mot, une origine. Depuis quelques semaines maintenant, c'est vrai que mon arrivée sur la radio Europe numéro 1 n'est plus un secret pour personne. Dès lors, parmi mes connaissances, les plus lettrées, il faut bien le dire, et les moins branchés, on me dit souvent « Stéphane, tu vas travailler avec Mathieu Noël ? Mais tu vas voir, il est ultra speed. Il va falloir mener cette émission de radio tambour battant. » Tambour battant. Mais d'où vient cette expression que nous utilisons tous les jours ? Enfin, surtout moi, j'avoue, je ne sais pas, Mathieu. Eh bien, de l'ancien régime et plus précisément de l'univers militaire. Tout comme pour la matinale d'Europe 1, cher Mathieu Bellière, vous partez au front de l'info tambour battant. Mais vous ne pouvez pas compter sur un joueur de tambour pour battre le rythme et vous motiver. Alors qu'au XVIIe siècle, avec les troupes d'infanterie, les ancêtres de Phil Collins donnaient le rythme de l'assaut avec leurs baguettes et leurs tambours, leurs instruments. Alors, soit les joueurs de tambour se positionnaient en deuxième ligne pour donner encore plus de courage aux soldats exposés en première, mais alors pour eux les risques étaient énormes évidemment parce qu'ils n'avaient pas d'autre arme que leur baguette et leur tambour. Soit ils se mettaient derrière tout le monde en dernière ligne pour forcer les plus lents à avancer coûte que coûte. Dans tous les cas, grâce au tambour, la charge gagnait en exaltation et en motivation. Et il faut bien le dire, parfois c'était pas du luxe. Il y a d'ailleurs d'autres expressions comme tambour battant qui viennent des militaires durant les assauts. Par exemple, mèche allumée, balle en bouche, pour dire qu'on est prêt à en découdre. Et puis, une expression que vous connaissez bien, avec armes et bagages, qui fait directement allusion au paquetage des soldats. Voilà. Bon, c'était là ma première chronique sur Europe 1. Permettez-moi, cher Mathieu et chers auditeurs, de me retirer au moins jusqu'à demain sans tambour ni trompette.
Non, tout va bien.
Autre expression militaire.
Si vous me promettez de revenir demain matin,
bien sûr.
Stéphane Bern, on va vous retrouver à 16h. 16h tous les jours sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël. Quel est votre programme du jour ?
Alors, c'est un duc, le duc de Boulogne, connu aussi sous le nom de Booba, qui nous a dicté le sommaire de cette première émission.
Sonnez numéro T, Saint-Martin.
Ouais, ça va plaire à Virginie. Que des numéros 10. Que des numéros 10.
Comment est-ce que vous savez ça, Stéphane? Que ça va plaire à Virginie.
Mais oui, parce que je le sens, je la vois. Non, parce que c'est les meilleurs pour la première. La première d'historiquement vôtre, on voulait les meilleurs joueurs, dans laquelle on va vous raconter les destins. Alors, du roi Louis X, dit le Hutin, du peintre allemand Otto X, mais enfin, ça se prononce Dix, en fait, et d'un numéro 10 d'anthologie, Zinedine Zidane. Bref, on vous raconte l'histoire sans nous se la raconter avec Mathieu Noël, l'excellent Mathieu Noël, à 16h, c'est sur Europe 1.
Il va falloir attendre jusqu'à 16h maintenant.
Oui, je ne sais pas comment je fais.
Merci Stéphane Bern. Bon, je suis très content parce que je veux dire à tous nos auditeurs qu'on travaille pour préparer une matinale, une rentrée, pour préparer une émission. Je savais qu'à 7h25, je retrouverais Stéphane Bern. Je connaissais le thème de la chronique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il nous passe du booba. 7h27.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous. À suivre la météo, Laurent Cabrol, et un nouveau journal à 7h30 avec Sophie Echen.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il est 7h30 sur Europe 1, un nouveau journal.
Personne ne croyait dans le parcours qu'on allait faire, et nous on a réussi de dépasser ce cas. Et il faut être fier d'être arrivé en finale.
La déception des joueurs parisiens si près du but. Pas de coupe aux grandes oreilles pour le PSG qui s'est incliné 1-0 hier soir contre le Bayern en finale de Ligue des Champions. Après cela, 150 arrestations cette nuit à Paris. Les supporters ont exprimé leur déception, eux qui rêvaient d'une célébration historique jusqu'au bout de la nuit. L'épidémie de Covid-19 en France, il y avait déjà des embouteillages devant les laboratoires au début de l'été pour se faire tester. Le retour des vacanciers n'arrange rien. La psychose en Bretagne, où des chevaux ont été retrouvés morts ou avec une oreille coupée. Les propriétaires organisent une véritable chasse à l'homme pour retrouver les auteurs de ces actes. Et puis le festival Off d'Avignon, délocalisé à Paris dès cette semaine. 8 représentations gratuites, mais mieux vaut réserver à l'avance pour être certain d'en profiter.
Juste après ce journal, à 7h40, retour sur la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, avec l'ancien président du club parisien, vainqueur d'une Coupe d'Europe en 96, Michel Denisot, dans Europe Matin. 7h50, l'édito politique de Nicolas Bétou, rentrée cruciale pour Emmanuel Macron et Jean Castex. Tout se joue maintenant pour 2022. Et avant 8h, oui, avant 8h, vous allez retrouver Nicolas Canteloup. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils se sont accrochés pendant 95 minutes, très exactement. Mais cela n'a pas suffi pour convaincre. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 1-0 face au Bayern Munich hier soir en finale de Ligue des Champions.
Les Bavarois l'emportent grâce à un but signé Kingsley Coman, un ancien du centre de formation parisien. Le réveil est d'autant plus dur pour le club de la capitale qui avait réussi à se hisser en finale pour la première fois de son histoire.
Et forcément, ce matin, le Paris Saint-Germain a de quoi nourrir quelques regrets. Julien Froment.
Une finale, il ne faut pas la jouer, il faut la gagner, et on a Paris aussi.
Neymar en pleurs, inconsolable, Kylian Mbappé groggy et des Parisiens à genoux. Pour sa première finale de la Ligue des Champions, le PSG est passé à la fois si près et si loin du titre. Des occasions en or ratées en première période qui ont laissé croire à l'exploit. Puis un second acte où là, le Bayern a fait sa loi, le rêve est passé. Mais pas de quoi rougir, le défenseur Marquinhos chez nos confrères de RMC Sport.
Personne ne croyait dans le parcours qu'on allait faire, et nous on a réussi de dépasser ce cas. Et il faut être fier d'être arrivé en finale, avoir de la déception parce qu'on n'a pas gagné et on veut toujours plus.
L'entraîneur parisien Thomas Tuchel, lui, regrette que son équipe n'ait pas pu saisir sa chance.
On a eu l'occasion, des grandes occasions pour marquer le premier but, et je suis absolument convaincu qu'on peut faire le même match et gagner 1-0 si on fait le premier but. Ce sont des petits détails dans le foot.
Face à une équipe du Bayern insubmersible, un gardien de but Manuel Neuer colossal et une attaque ultra efficace, Paris a payé pour apprendre face à la meilleure équipe d'Europe. Lisbonne, Julien Froment, Europe 1.
Et les supporters, eux, s'attendaient à fêter la victoire de Paris. Malgré la défaite de leur club, ils se sont rassemblés sur les Champs-Élysées où des heurts ont éclaté avec plusieurs voitures incendiées. Une bijouterie a également été pillée.
Et les débordements avaient déjà commencé pendant le match autour du Parc des Princes. Écoutez, Francis Piner, le maire du 16e arrondissement de Paris, il était l'invité d'Europe 1 à 6h20 ce matin.
Il y a eu évidemment, comme malheureusement dans tous les rassemblements populaires, des casseurs et des voyous qui essayent de se mêler à ça. Ce matin, je crois qu'il y a eu au moins une cinquantaine d'interpellations. Dans le 16e arrondissement, il y a eu quelques magasins endommagés, porte de Versailles, des voitures légères et des scooters amochés. C'est un bilan inacceptable qui aurait pu être plus lourd, et les forces de l'ordre ont fait leur travail, une fois de plus, évidemment, elles ont été prises à partie par des gens qui n'ont rien à voir avec le football et rien à voir avec les supporters.
Le maire du 16e arrondissement de Paris, Francis Piner, avec Sébastien Krebs. Le dernier bilan de la préfecture de police fait état de 148 interpellations et plus de 400 contraventions pour non-respect du port du masque.
L'actualité, c'est aussi, bien sûr, l'épidémie de coronavirus qui se poursuit en France. Plus de 4500 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures.
Un chiffre notamment dû au fait que les Français se font de plus en plus dépister. Cela fait d'ailleurs plusieurs semaines que les laboratoires d'analyse croulent sous les demandes. Au mois de juillet, c'était à cause des départs en vacances.
Alors forcément, fin août, ce sont les retours qui provoquent des embouteillages, comme l'a constaté Pierre Herbulot dans un centre de dépistage sans rendez-vous.
La file d'attente est à peu près aussi longue qu'au début du mois de juillet, mais ceux qui patientent avant d'être testés sont beaucoup plus bronzés.
Ouais, je rentre de vacances, j'étais en Italie la semaine dernière.
Parce que je rentre de vacances, j'étais en Grèce.
La semaine dernière, on était à Marseille.
Au laboratoire, les vacanciers qui reprennent le travail sont désormais majoritaires devant les cas contacts et les suspicions de Covid. Un embouteillage secret.
Ça fait 3 fois que je viens et que c'est fermé. C'est pas possible, ça.
Pour faire face, l'infirmière est obligée de refuser tous les nouveaux arrivants 1 heure plus tôt que prévu. Maryse en fait les frais.
Écoutez, on est dans une crise. Ils devraient s'organiser pour qu'on puisse faire des tests davantage. Il n'y a pas assez, on ne peut pas assez.
La machine est justement grippée à cause des tests non indispensables, défend Lionel Barrand d'un syndicat de biologistes, comme ces dépistages systématiques en rentrant de vacances.
Il faut qu'il y ait une situation à risque et les pays sont bien précisés par le ministère. Et là, évidemment, par contre, il faut se faire dépister avant de reprendre le travail. Il faut que les laboratoires soient disponibles pour faire ce test rapidement. Donc, il faut éviter d'emboliser avec des personnes qui ne sont pas nécessaires de dépister.
En plus de l'engorgement, le risque, c'est une pénurie de réactifs. Le stock de ce produit qui permet de lire les résultats des tests est d'ores et déjà extrêmement bas, 3 jours d'avance au maximum.
Un reportage signé Pierre Herbulot. Et le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue d'augmenter. 7 départements sont désormais classés en niveau de vulnérabilité avancée. Paris, la Guyane, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, la Sarthe, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Il est 7h36. Des actes d'une cruauté sans nom. Depuis le début de l'année, des chevaux sont retrouvés morts ou mutilés, l'oreille coupée. Ça se passe dans le nord de la Bretagne, entre Guingamp et Morlaix.
Évidemment, plusieurs enquêtes sont en cours, mais les propriétaires des animaux ainsi que les habitants des communes concernées ne veulent plus attendre les bras croisés. Alors sur place, la traque est lancée pour retrouver les auteurs de ces actes. À Plouzé-Lambre, dans les Côtes d'Armor, le reportage de Charles Guyard pour Europe 1.
Ça va partir en chasse à l'homme, ouais. C'est le risque.
La crainte d'Elisa, elle est là, que la tranquille campagne du Trégor où elle vit ne prenne des accents de Far West.
On a les nerfs à vif, quoi.
Cette rancœur, ils sont près de 1200 à la partager sur un groupe Facebook créé spécialement juste après une série d'attaques menées sur des chevaux du secteur la semaine dernière. 1200 membres, dont Elisa, prêts à se relayer toutes les nuits pour patrouiller.
Les rondes sont organisées avec différents secteurs, de telle heure à telle heure, et puis on observe. Notre but, c'est d'identifier les individus et de relever les plaques, et puis d'avertir la gendarmerie. Mais on n'est pas là non plus pour jouer au cow-boy.
Il vaut quand même éviter une petite balade nocturne dans les environs en ce moment, car si une charte de bonne conduite a bien été publiée sur le réseau social pour rappeler que toute violence est interdite, certains se disent ouvertement prêts à s'en affranchir.
J'ai entendu que s'ils étaient arrivés au bon moment, ils auraient fait justice eux-mêmes.
Depuis qu'un cheval a été retrouvé mort sur sa commune, le maire de Plouzé-Lambre perçoit clairement monter ce sentiment de vengeance. Et face à ces élans de radicalité, André Cohen te prévient.
Il ne faut pas que ces gens-là qui se baladent dans la nature le soir interviennent, parce que ça pourrait être très dangereux pour eux. Et d'autre part, surtout qu'ils ne soient pas armés. Ça, c'est hors la loi.
Et l'élu de rappeler que toutes ces rondes pourraient même compliquer le travail des vrais enquêteurs sur le terrain en créant la confusion. Plouzé-Lambre, Charles Guyard, Europe 1.
Et puis le festival Off d'Avignon à Paris. 8 spectacles seront proposés dès cette semaine en extérieur et plusieurs fois par jour. C'est une initiative de la ville de Paris qui a débloqué 100 000 euros pour soutenir ses artistes touchés de plein fouet bien sûr par la crise du Covid.
Et des auteurs, metteurs en scène, comédiens qui sont à l'arrêt depuis 5 mois vont donc profiter de cette occasion pour enfin se produire. Diane Chenouda.
Se planquer sous la table.
Non, pas de table.
Sous le lit.
Vous n'irez pas sous mon lit.
3 semaines que les comédiens répètent cette pièce qu'ils joueront en plein air, 2 fois par jour dans un jardin du Marais et un square du 15e. Une aubaine, comme le confirme l'actrice Muriel Godin.
C'est une grande chance parce que nous, on pensait que le spectacle serait reporté en Avignon 2021. Et on a la chance de pouvoir créer le spectacle assez rapidement à Paris, en plein air, avec des jauges réduites, mais voilà, dans des bonnes conditions. Donc on est très heureux de ça.
À l'affiche également... Ce spectacle musical consacré à la vie de la Calas, pour l'un des comédiens, Thibaut Corion, c'est aussi l'espoir d'être comme à Avignon, repéré par les programmateurs.
Rencontrer des professionnels qui vont peut-être être intéressés. Et donc, s'il n'y a pas de deuxième vague, et si ce n'est pas trop dur l'année prochaine, et si les théâtres enfin réouvrent, en tout cas qu'on puisse jouer. Donc il faut que les gens voient ce spectacle. Et c'est vrai que du coup, ce festival off à Paris, c'est une très très bonne occasion. Ouais.
Un mini-off qui réjouit aussi le président du festival, Pierre Beffette.
Ça permet aux spectateurs d'aller voir plusieurs spectacles par jour et d'avoir un tout petit peu ce charme et cette fièvre d'Avignon.
Et l'entrée est gratuite.
Voilà, Diane Chénouda du service culture d'Europe 1.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30. À 8h, une nouvelle édition tout à l'heure avec François Geffrier.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15 sur Europe 1, Sonia Mabrouk reçoit Elisabeth Borne. Comment se prépare la rentrée dans les entreprises? Votre rentrée finalement, le report du plan de relance aussi. Les réponses ce matin de la ministre du Travail. Tout de suite, dans Europe Matin, on va bien évidemment revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Et mon invité ce matin, c'est tout simplement le seul président du PSG à avoir gagné une Coupe d'Europe. Bonjour Michel Denisot.
Oui, bonjour Mathieu.
À tout de suite sur Europe 1, 7h40.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h41, Michel Denisot, journaliste, réalisateur, patron de presse, ce matin ancien président du Paris Saint-Germain, le PSG des années 90. Pas trop déçu Michel Denisot ce matin?
Si, je partage la déception de tous ceux qui hier soir, je pense étaient des millions, à attendre la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le PSG a fait pour la première fois, a atteint atteint la finale, mais c'est vrai, comme vous le disiez dans le journal il y a quelques instants, ou comme Thomas Tourelle le disait, c'est que ça se joue sur peu de choses. On dit toujours la même chose dans les matchs de très haut niveau. Une finale, c'est très très particulier. Et c'était la 11e finale pour le Bayern, la première pour le PSG. C'est la 6e victoire du Bayern en Ligue des Champions. Le PSG arrive à ce niveau maintenant. Mmh. Et la première fois, Marseille a perdu aussi en 91 avant de gagner en 93, donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et c'est vrai que hier soir, il y a eu de la déception au résultat final parce que la première mi-temps était extrêmement serrée, tendue, et on a vu dans l'équipe du Bayern le meilleur gardien du monde, Neuer, qui est à la fois un gardien de hand et un joueur de champ, donc qui est vraiment exceptionnel.
J'ai même entendu parler de gardien de hockey, en l'occurrence, en parlant de Manuel Neuer.
Aussi, ouais.
Alors ce tweet de Kylian Mbappé, je voulais vous le lire, déçu de ne pas conclure cette année avec la plus belle.
Oui, je l'ai lu. Ouais.
La vie est faite ainsi, un peu de sagesse chez Kylian Mbappé. Les larmes de Neymar aussi. Je voulais vous poser la question absolument, Michel Denisot. Il a été consolé après le match par Nasser El Khelaifi, votre successeur, le président du PSG. Il lui a dit quoi, à votre avis?
Je ne sais pas.
Que dit un président?
Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Il a dû le réconforter en lui disant que si on était arrivé là, c'était grâce à lui. Que peut-être, hein, je ne sais pas, et que l'année prochaine, on avait appris de ce match, et que l'an prochain, le PSG gagnerait. Enfin, des mots de ce genre.
Il y a la conversation, oui, de réconfort d'homme à homme. Mais vous me voyez venir, évidemment, Michel Denisot. Il y a aussi un président qui parle à son investissement à 222 millions d'euros. Neymar, Mbappé, ces hommes, ces stars dont on parle, ces étoiles, ils ne sont pas un peu responsables aussi du résultat?
Ils sont responsables des victoires comme des défaites. Tout le monde est responsable dans un club. Je crois qu'il n'y a pas que les joueurs qui sont responsables. C'est tout un ensemble. Je veux dire, le chauffeur du bus est responsable aussi. Mais je plaisante un peu. Mais il y a une. C'est très collectif, quoi, de gagner. Mais après, effectivement, on se repose sur Neymar et Mbappé qui n'ont pas fait le meilleur match de leur vie hier soir, qui étaient dans un cet enjeu peut-être. Et puis la présence de Neuer, je pense, est très importante dans le fait que évidemment, c'est une évidence que Paris n'ait pas marqué de but.
Le gardien allemand, évidemment, on va beaucoup en parler dans la journée qui démarre. Kingsley Coman, formé au club, formé au Paris Saint-Germain, c'est l'homme qui a marqué hier soir le seul but de la rencontre et qui a offert donc ce titre au Bayern Munich. On a du mal à retenir nos jeunes en France, il y a un sujet.
Disons qu'il y a un trou dans la raquette, c'est-à-dire que quand on a un centre de formation, qu'on forme des jeunes pendant 4 ans, c'est aussi une forme d'investissement. Et il y a, au moment de signer professionnel, les joueurs ne sont pas obligés de signer professionnel dans le club qui les a formés. Moi, j'ai connu ça jadis quand j'étais au PSG avec Nicolas Anelka, qui a fait la même chose, qui au moment de la fin de sa formation a joué un match ou quelques matchs avec nous, a marqué et puis
ça avait été l'objet de litiges juridiques presque. À l'époque. Hein.
C'est pas une escroquerie qu'a fait Arsenal, c'est pas une escroquerie qu'a fait le Bayern. C'est les textes le permettent. Effectivement, c'est très frustrant et qui plus est quand 6 ans plus tard, c'est ce joueur-là qui vous fait perdre la Ligue des Champions. Enfin, c'est lui qui a marqué le but en tout cas. C'est assez fréquent que les joueurs qui ont quitté votre club et qui jouent dans une équipe en face vous mettent un but. Hein.
C'est assez fréquent. Je continue les citations. On a entendu le défenseur annoncé comme futur capitaine, d'ailleurs, dans le journal de 7h30. Marquinhos, une finale, faut pas la jouer, faut la gagner. Je le disais en vous présentant, vous êtes le seul président du Paris Saint-Germain à avoir joué et gagné une finale de Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes en 96, Michel Denisot. Qu'est-ce qui a manqué, justement, pour franchir le pas ?
Il a manqué l'efficacité dans le dernier geste. Il y a eu des occasions, des vraies occasions de but, quoi, surtout en première mi-temps pour Neymar et Mbappé, qui, je pense, quasiment 9 fois sur 10 auraient mis le but. Mais il y avait aussi un gardien, comme j'ai dit, dans l'équipe de Bayern, qui est le meilleur du monde et qui est exceptionnel, et qui, je pense, au moment de la frappe, a un impact psychologique sur le tireur, parce qu'on sait qu'en face c'est un phénomène qui est dans les buts et donc le...
Ah oui, tout Kylian Mbappé, tout Neymar qu'ils sont, ou Di Maria éventuellement, face à Manuel Neuer, ils perdent un peu d'efficacité, de moyens.
Je faudrait leur demander à eux. Je pense pas qu'ils perdent de l'efficacité, mais il y a un point d'interrogation peut-être supplémentaire au moment de la frappe, en disant mais c'est lui qui est en face. Je fais quoi? En tout cas, c'est le résultat est là. Donc on peut toujours après discuter pendant sur ces temps du pourquoi du comment. Mais je pense que pour moi c'est Neuer et Coman qui ont gagné pour le Bayern hier. En premier, et puis le coach du Bayern a très bien géré son groupe aussi.
Alors Manuel Neuer, il faut le mentionner pour nos auditeurs, gardien du Bayern de Munich, une fois le trophée soulevé, a posté une photo de son équipe avec le trophée, et il l'a géolocalisé au stade Vélodrome. Vous avez parlé de Marseille, vous avez été président du PSG pendant les grandes années de rivalité entre Paris et Marseille. Cette bonne guerre, il le fait parce qu'il est ami avec Ribéry aussi, on le sait, mais cette bonne guerre où les images de joie à Marseille, ça vous surprend, ça vous amuse?
Bon, ça fait partie du jeu, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant et ce que j'aime le plus, mais bon, on peut pas empêcher les supporters qui est de Marseille, les supporters les plus ultras de Marseille qui ont gagné la Coupe d'Europe en 93 de dire bah voilà, on est les seuls. Mais enfin, aujourd'hui l'antagonisme Paris-Marseille n'est plus le même qu'à l'époque où c'était au siècle dernier, quoi, à l'époque où c'était Bernard Tapie en face et puis moi au PSG.
Oui, une autre époque dont on se souvient, cela dit. Votre nom, Michel Denisot, a circulé cet été. Je voulais vous poser la question avant de terminer cette interview. Est-ce que vous êtes candidat à la présidence de la Ligue de football professionnel?
Non, je suis pas candidat. Il va y avoir des élections le 10 septembre parce que le conseil d'administration doit être renouvelé dans sa totalité. Donc je pense que je serai candidat pour être au conseil d'administration. Ça doit se décider dans les trois jours qui viennent parce qu'il faut des parrainages, etc. Et puis après on verra comment ça se passe. Mais
vous en avez envie?
Je pense qu'on n'est pas candidat à la présidence de la Ligue, quoi. C'est le conseil qui vous choisit. C'est à l'intérieur. Il faut d'abord savoir qui sera au conseil et ensuite c'est à l'intérieur du conseil qu'on choisit président, qu'on élit le président, qui est une tâche assez lourde.
Une tâche assez lourde, mais je vous demandais simplement si vous en avez envie, en fait.
Je ne sais pas encore. Voilà, ça, il va falloir que je le sache bientôt. Je ne sais pas encore.
Je vous laisse le temps de réfléchir, vous viendrez me le dire. Simplement, ce résultat, c'est une défaite hier, mais c'est un club français en finale de Ligue des Champions. C'est une bonne nouvelle pour le foot français, Michel Denisot.
Il faut rappeler qu'on avait quand même deux clubs en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du football français. L'Olympique Lyonnais, qui a fait un superbe parcours, qui a éliminé la Juventus, Manchester City, et qui est tombé sur le Bayern aussi. Et Paris qui va en finale. On n'a jamais eu le football français n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais n'est jamais allé aussi haut avec deux clubs. Donc c'est une bonne nouvelle pour le football français et pour le championnat français. Les Anglais disent toujours que c'est un championnat de paysans, mais je crois qu'ils ont qu'à regarder un peu ce qui s'est passé cette année. Le football français est meilleur que le football anglais.
Ce sera le mot de la fin. Michel Denisot, merci beaucoup.
Merci.
Et bonne rentrée à vous. On va suivre évidemment pour ce qui est de la Ligue de football professionnel. Michel Denisot, ancien président du Paris Saint-Germain, il a un trophée et pas des moindres, la Coupe des Coupes en 1996 avec le PSG. Le seul président du PSG à avoir remporté une Coupe d'Europe était sur Europe 1. Il est 8h-10.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Pour le président de la République et pour le Premier ministre, 2022 se joue aujourd'hui. À suivre l'édito politique de Nicolas Bétou. Et puis juste avant 8h, on va appeler un membre de l'équipe qui est encore en vacances. Nicolas Canteloup avec nous pour une nouveauté. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h51, Europe Matin. Bon réveil à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et puis, bonne rentrée à ceux qui reprennent le chemin du boulot. L'édito politique de Nicolas Bétou tous les matins à 8h10. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Nicolas, on s'attendait à une rentrée sous le signe de la relance de l'économie avec le plan à 100 milliards d'euros qui devait être présenté demain, mais non. Non, le dispositif a été reporté d'une semaine.
Alors que tout indique que le plan était ficelé dans le détail et jusqu'au dispositif de communication du gouvernement. Alors, explication officielle, contrairement aux apparences, ce n'est pas un couac, mais une manière d'échelonner les annonces. D'abord les mesures sanitaires, les nouvelles règles sur le port du masque, y compris en entreprise et à l'école, et ensuite seulement... la relance.
Qui passe donc en quelque sorte au second plan ?
Ben oui, c'est le risque en termes d'affichage. Alors, je vous épargne les déclarations de convenance sur le thème « La santé des Français, c'est primordial, c'est la priorité des priorités ». Bon, d'accord, mais la survie de l'économie et l'état du pays, ça ne l'est pas moins. Emmanuel Macron le dit depuis plusieurs mois, la rentrée sera très difficile, alors autant éviter ce genre de petits ratés. Bon, il est vrai que les deux sujets obéissent à un tempo différent. Les masques, les contrôles, le retour des sanctions aussi, c'est pour l'immédiat. Il faut affronter tout de suite et dominer tout de suite ce que le ministre de la Santé, Olivier Véran, qualifie désormais de situation à risque.
Oui, c'était dans une interview au JDD hier.
Effectivement.
Et la relance, c'est donc pour après ?
Eh bien, c'est pour la suite, oui. C'est ce qui va déterminer le climat économique et social et donc politique des 12 à 18 prochains mois. Et il n'aura échappé à personne que 18 mois, c'est grosso modo la durée qui nous sépare de la prochaine élection présidentielle. Ce qui se jouera avec les 100 milliards du plan de relance, c'est la capacité de la France à absorber un choc social comme le pays n'en a pas connu depuis un siècle. C'est la possibilité de sauver ce qui peut l'être du tissu entrepreneurial français. Et puis c'est le pari de restaurer un minimum de la confiance des Français dans l'avenir. Eh bien vous avez là la plupart des clés de la dernière partie du quinquennat. En fait, le plan de relance, c'est la deuxième étape de l'objectif 2022.
La première étape, c'était quoi, Jean Castex, Premier ministre ?
Oui, bien sûr. Mais pour lui, les choses sérieuses commencent. Il a plutôt bien réussi son entrée dans l'atmosphère politique et son atterrissage surprise à Matignon. Et puis, il s'est démené tout l'été, parcourant la France et occupant les médias. Bon, comme on dit, ça... c'est fait, les Français commencent à le connaître, le moment est donc venu d'enclencher la deuxième étape, la relance, et de dérouler le dispositif qui devrait permettre à Emmanuel Macron d'être candidat à sa succession. Inconvénient, tout ça se passe dans un climat de très grande incertitude sanitaire. Mais avantage, ce climat ne profite pour l'instant à aucun des adversaires politiques du chef de l'État. Comme on disait Mathieu hier soir à Paris après la défaite, voilà, c'est la glorieuse incertitude du sport.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito politique, c'est tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h, 7h54. Oui, à 7h54, vous entendez bien cette petite musique. À partir de lundi prochain, on va retrouver Nicolas Canteloup à 8h45 comme d'habitude, mais aussi à 7h50. Et je crois qu'on a une petite surprise, il est au téléphone avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, quel plaisir de
vous entendre. Vous n'êtes pas en studio avec nous ?
Mais je suis avec vous, bien sûr. Bon, pas physiquement, mais je suis bien sûr avec vous. Puis, vous savez, moi, je veux être en phase avec mes auditeurs, avec nos auditeurs. Hein, ça fait 15 ans qu'on est en phase comme ça, donc je sais qu'ils rentrent dans une semaine. Donc je rentre avec eux, en même temps qu'eux, voilà. Mais la bonne nouvelle, puisque je vous entends ce matin, c'est que vous êtes toujours là, fidèle au poste, Mathieu. Vous n'avez pas été remanié, vous n'avez pas subi une Édouard Philippe. Quoi. Avec un nouveau slogan, j'ai entendu « Écoutez le monde changer et regardez le PSG marqué ». Ça, c'est... Avec toujours à la pointe de... J'ai entendu, je vous ai vraiment écouté ce matin, avec la pointe de l'interview toujours à l'affût, l'interview de Thomas Tuchel, c'est une exclue quand même. Avec la petite interview et puis la phrase qui a marqué, on a peut-être manqué, oublié peut-être un détail, de marquer le but. Ça peut compter de marquer le but dans un match de foot. Mais bon, voilà. En tout cas, vous êtes bien là, Mathieu. Par contre, j'ai fait une erreur, parce que je me suis levé à 6 heures. Et là, vous n'attaquez pas à 6 heures avant le matin, Mathieu ?
Non, plus maintenant.
Plus maintenant, voilà, c'est ça. Donc vous, votre nouveau slogan, c'est « Travailler moins pour gagner pareil ». C'est ça, le truc. Mais vous êtes toujours... ce qui me plaît, c'est que vous êtes facile au micro. Vous êtes Vous êtes le Neymar de l'info. Oh. Le Mbappé de la news, le meilleur sur le terrain, mais à la fin. À la fin, je perds quand même. Mais c'est vrai, je suis le Mbappé de la news. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vous le dis, chers auditeurs, on va battre cette année. On va battre RTL, on va battre RMC, on va battre France Inter, toutes les radios avec un R, on va les battre. Et pour ça, je vous le dis, chers auditeurs, on a une botte secrète. Annoncé en juin. Tambour battant.
Oui, tambour battant, on l'a annoncé en juin. C'est l'arrivée de la chronique d'Éric Dupond-Moretti. C'est vrai. Non.
Attendez, Stéphane, c'est un transfert, ça a changé. Il a été, c'est le transfert le plus rapide de l'histoire, signé un mardi et il a quitté le club le mercredi.
Joli. Alors, Nicolas, dans un instant, on va retrouver l'interview de Sonia Mabrouk qui recevra Elisabeth Borne.
Oui, Elisabeth Borne, alors elle a repris le ministère du Travail, c'est ça. Elle a remplacé Muriel Pénicaud. Ça va nous aider parce que Muriel Pénicaud, elle était difficile à décrypter dans sa façon de parler. Mais Elisabeth Borne, c'est quoi? C'est Muriel Pénicaud en clair, quoi. Avec un décodeur, ça va nous aider. Bon, ça va aider Sonia, je pense.
Sinon, mon cher Nicolas, est-ce que vous avez passé un bel été?
Ah ben j'ai passé un très bel été. C'est d'ailleurs pour ça que je prolonge, Mathieu. D'ailleurs, c'était en France, bien sûr, en France. Je dois dire, n'est-ce pas, Monsieur Blédard, que j'ai passé d'excellentes vacances, une fois n'est pas coutume, et des vacances franco-françaises, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, je suis votre plus fidèle auditeur, sachez-le, Mathieu, encore
que vous êtes
7
là.
Jours, et puis pour toute l'année. Mais j'ai amené quand même des devoirs de vacances. J'ai bossé mon... Je dis pas trop fort, j'ai bossé mon Jean Castex. Alors je vais être magnanime, je vais le dire à mes camarades, mes bons camarades imitateurs. La clé pour Jean Castex, on dit tout ce qui prend son temps pour parler, c'est pas des virgules entre les mots, c'est des canyons qui entre ces mots. Mais non, c'est surtout la clé, Laurent. J'entends Laurent. Salut Laurent.
Salut.
La clé, c'est qu'il bouffe les consonnes. Toi, Laurent, qui est du Sud-Ouest, tu l'as peut-être entendu. Il bouffe les consonnes. Par exemple, le D. Il a complètement sorti de son alphabet, Jean Castex. Quand il dit pas « la France doit s'adapter », il dit « la France doit s'adapter ». La France doit faire preuve d'adaptation. Voilà.
Ça promet.
Et puis notre Dupond-Moretti. Il y a un formidable espoir. Attendez, Mathieu, il y a un formidable espoir pour vous, ou pour toi, je ne sais plus comment on dit. C'est qu'il était quand même prévu sur Europe 1 et il finit ministre. Donc c'est boulevard pour toi, Mathieu. Tu vas finir à Matignon dans 2 ans.
Merci Nicolas Canteloup. Encore en vacances, mais déjà avec nous, évidemment, Nicolas Canteloup, la revue de presse, le meilleur de la revue de presse, à 8h45 tout à l'heure. Et vous l'aurez compris, dès lundi prochain, Nicolas Canteloup, avant 8h également. Vous êtes sur Europe 1. Bon réveil. Vous êtes sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Allez, le télégramme. Sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, quelques gouttes de pluie, stop. Et puis un tout petit peu plus au sud, pas mal de nuages, notamment sur Paris, stop. Et dans le sud, du soleil, avec des températures de 22 à 25, stop et fin.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer. Il est 8h.
J'ai un petit truc quand même dans mon cœur qui est un peu triste parce que Paris, c'est un club forcément qui a vraiment compté pour moi. J'ai grandi là-bas.
Il a même bien grandi depuis son passage au centre de formation du PSG, le français Kingsley Coman. Il a suffi de son unique but pour que le rêve européen des Parisiens ne s'achève sur un réveil brutal, celui de l'expérience et de la solidité du Bayern. Que va tirer Paris de cette épopée inédite? L'investissement du Qatar, les stars Mbappé, Neymar qui rêvent d'Europe, voudront-ils tourner la page? Les premières questions dans ce journal. Le Covid-19 et le masque qui va devenir l'objet du quotidien le plus courant en France. Dans 8 jours à peine, ce sera obligatoire dans les entreprises, mais aussi les collèges et les lycées. Reportage à suivre, alors que le gouvernement retarde son plan de relance. Priorité justement à la pédagogie sur la crise sanitaire. Et puis, la sœur de Donald Trump, enregistrée à son insu alors qu'elle critiquait vertement son président de frère. Une affaire de famille puisque c'est la nièce qui avait caché le micro.
Juste après ce journal, l'invité politique de la matinale d'Europe 1, Elisabeth Borne, ministre du Travail, au micro de Sonia Mabrouk. Il est 8h02, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1,
Écoutez le monde changer.
Une défaite du plus petit score possible pour la plus grande des compétitions de clubs. En atteignant pour la première fois la finale de la Ligue des Champions, le PSG de 2020 avait déjà réussi à rêver plus grand, son slogan, mais a raté la dernière marche pour être vraiment magique.
Désillusion d'autant plus cruelle que le buteur de la soirée, Kingsley Coman, aujourd'hui au Bayern de Munich, a débuté sous les couleurs bleu et rouge du Paris Saint-Germain, Cyril de la Morinerie.
Kingsley Coman a terrassé son club formateur. Arrivé à l'âge de 9 ans au PSG, l'attaquant aux jambes de feu y a fait toutes ses gammes avant de faire ses valises d'abord en Italie à la Juventus de Turin, puis au Bayern Munich. Mais celui qui a déjoué la vigilance de son ancien ami du centre de formation du PSG, Presnel Kimpembe, n'a pas oublié ses années parisiennes.
J'ai un petit truc quand même dans mon cœur qui est un peu triste parce que Paris, c'est un club forcément qui a vraiment compté pour moi. J'ai grandi là-bas. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et un petit peu de tristesse.
Kingsley Coman est le symbole de ce centre de formation du PSG qui n'arrive pas à conserver ses talents. Adrien Rabiot parti à Turin, mais aussi Dembélé à Lyon, Aouchiche à Saint-Etienne ou encore Tanguy Kouassi qui vient de signer au Bayern Munich, ce que déplore l'ancien président du PSG, Charles Villeneuve.
On ne soigne pas nos joyaux qu'on forme parce qu'on a un centre de formation qui depuis quelques années fait partie des 20 meilleurs centres de formation d'Europe. C'est vrai pour Lyon, c'est vrai pour Rennes, mais au moins on les garde, on les exploite, on les met en lumière.
Une leçon pour le PSG, Kingsley Coman pourrait, s'il est épargné par les blessures, s'affirmer aussi un peu plus en équipe de France.
Et hier soir, le duo de stars parisiennes Kylian Mbappé et Neymar ont déçu, on peut le dire, se heurtant à un immense gardien, Manuel Neuer, inébranlable et expérimenté comme son équipe du Bayern.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour, bonjour
à tous. Chef du service des sports d'Europe 1, avec vous on se projette ce matin sur la suite pour le club et pour ceux qui le composent, avec d'abord celui qui a fait ses adieux hier soir, Thiago Silva.
Oui, Thiago Silva, c'est un monument de l'histoire du PSG qui va sans doute tirer sa révérence. Le monstre, comme on l'appelle, 8 ans qu'il porte le maillot parisien, c'était l'une des premières grosses prises des dirigeants qataris. Il symbolise à la fois la force et la faiblesse parisienne, celle d'une équipe qui surclasse ses adversaires français mais n'arrive pas à conquérir l'Europe. Thiago Silva aura bientôt 36 ans, c'est un homme et un joueur très attachant. Il était très ému d'ailleurs hier soir quand il a fait ses adieux. Mais attention tout de même au post-scriptum, puisque ses dirigeants espéreraient en secret le retenir pour une dernière saison.
Le sort de l'entraîneur Thomas Tuchel est-il aussi, lui, en question après cette défaite en finale?
Bah écoutez, une image hier soir résume la situation. Le président du PSG qui enlace longuement les joueurs un à un, mais avec Tuchel, c'était glacial. L'entraîneur allemand restera celui qui a emmené le club en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, avec à la clé cette saison un quadruplé national, il ne faut pas l'oublier, championnat et coupe. Mais il est là avant tout pour la Ligue des Champions. Alors les progrès sont là, finale, mais cela suffira-t-il? En coulisses, ses dirigeants se montrent très évasifs sur son avenir. Le sort de Thomas Tuchel ce matin est incertain.
Est-ce que l'encadrement, les patrons du PSG pourraient changer?
Alors le président Nasser Al-Khelaifi a tenté de masquer son immense déception hier soir, une de plus, très paternaliste avec ses joueurs, on l'a dit, notamment Neymar qui l'a longuement consolé, et très positif dans son discours d'après-match. Il a promis la victoire pour très bientôt dans cette Ligue des Champions, cette Ligue des Champions qui obsède l'émir du Qatar notamment depuis bientôt 10 ans. Pour le moment, Nasser semble protégé par la proximité avec la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Le PSG ne peut pas se permettre de ralentir. Leonardo, le directeur sportif, ne va pas échapper lui à une remise en question malgré des investissements colossaux. L'effectif, on l'a vu, reste déséquilibré en défense, au milieu. Les remplaçants du Bayern hier soir ont été plus forts, et c'est un ancien joyau, on en parlait, de la formation parisienne, un titi, Kingsley Coman, qui a donné la victoire au Bayern. Stopper la fuite des talents, dessiner un Paris Saint-Germain plus français, c'est un chantier prioritaire.
Et Jean-François, côté finance, il n'y aura pas le jackpot de la victoire, mais ce parcours qui est tout de même assez rémunérateur.
Oui, le Paris Saint-Germain va récupérer beaucoup d'argent, plus de 120 millions d'euros, mais la crise du Covid lui aurait coûté autant. Alors cette saison, le club va être partagé entre son envie d'investir encore pour franchir cette dernière marche, et puis la réalité économique actuelle, sans oublier le fair play financier qui limite sa marge de manœuvre. Donc a priori, pas question d'acheter l'équivalent de Neymar ou Mbappé. D'ailleurs, les deux superstars qui ont une grosse revanche à prendre devraient encore être parisiens la saison prochaine. C'était histoire de finir sur une bonne nouvelle pour les supporters. On retrouve le Paris Saint-Germain dès samedi soir à Lens. Retour à la réalité de la Ligue 1.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports de la rédaction d'Europe.
Côté supporters, il y a eu des échauffourées hier soir aux abords du Parc des Princes, à l'intérieur duquel le match était retransmis sur écran géant devant 5000 personnes. Des tensions dans la soirée également dans le secteur des Champs-Élysées, vitrines brisées, voitures incendiées. La préfecture de police annonce ce matin avoir interpellé 148 personnes pour dégradation ou violence.
8h07 sur Europe 1. Avez-vous prévu, anticipé votre protocole de salutation avec les collègues de bureau à partir du 1er septembre, le masque devient obligatoire dans les entreprises, y compris dans les open space.
Le clin d'œil sera plus efficace que le sourire pour se saluer à distance. C'est déjà le cas dans certaines entreprises. Aurélien Fleureau s'est rendu pour Europe 1 dans une start-up de location de bateaux où la mesure est appliquée sans trop de difficultés.
Les salariés étaient même plutôt pour et proactifs en fait, dans le port du masque. Tout le monde le met au bureau, donc c'est plutôt bon signe.
Avec une petite centaine de salariés répartis dans plusieurs open space sur deux étages d'une péniche, Tiffaine Lévy, la responsable RH de Click & Boat, avait fait passer la consigne. Le port du masque est fortement recommandé. Pas d'obligation, mais tout le monde s'y est mis, à l'image de Lydia.
Dans le métro, on le met, on en sort, on l'enlève pour prendre un peu l'air. Et puis naturellement, dans les bureaux, c'est un endroit clos. Donc on va le garder, on est assis peut-être à un peu moins d'un mètre, même si on n'est pas collés les uns aux autres. Mais ça devient des gestes finalement qui deviennent naturels.
Naturels, mais forcément aussi un peu contraignants.
On est très heureux de l'enlever quand on rentre chez soi, de se nettoyer le visage aussi. Voilà, il y a des inconvénients aussi à porter le masque tous les jours, hein, faut pas se mentir.
Et l'apparition d'une nouvelle routine au travail, celle de la petite pause sans masque, comme l'explique Bastien.
Si on a vraiment besoin de souffler, on se met dans un espace loin des autres, on souffle, on le remet et puis voilà.
Depuis l'annonce de l'obligation du port du masque en open space, Bastien a reçu quelques coups de fil d'amis inquiets. Ces quelques semaines de retour d'expérience ont permis de les rassurer.
Le masque, il en sera question tout à l'heure. Hein. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Autre lieu où le protocole sanitaire est renforcé, dans 8 jours à peine, l'école.
Oui, tous les enseignants seront masqués, les élèves aussi à partir de 11 ans. Pourquoi 11 ans? On va l'entendre avec ce reportage de Johanna Chabas. Cette limite d'âge interroge certains parents.
On entend tout et son contraire. Et je ne sais pas en fait si je dois être rassurée ou inquiète.
Caroline est déjà sur le pont pour la rentrée de ses 4 garçons de la maternelle au collège. Autant d'enfants que de règles sanitaires différentes. Et elle ne comprend pas pourquoi les masques sont obligatoires seulement à partir de l'âge de 11 ans. Son aîné de 12 ans devra le porter, mais pas le petit frère de 10 ans.
Pour nous, ce sont deux enfants qui ont 2 ans d'écart et qu'on a toujours élevés ensemble. Je ne vois pas trop la différence entre les deux. Donc j'ai l'impression qu'il y en a un qui va être protégé et pas l'autre.
Et ce masque obligatoire énerve plus d'un parent depuis que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré qu'il était une fourniture comme les autres à la charge des familles. Marie a un collégien de 11 ans. Elle a prévu un stock de 6 masques lavables pour un budget de 10 euros.
Je ne sais pas si cette décision est vraiment équitable parce qu'il faut pouvoir se payer les masques, il faut pouvoir les entretenir. Je trouve dommage que l'État ne s'occupe pas de cette problématique-là au risque de finalement que les enfants ne les portent pas ou les jettent. Voilà.
Face aux nombreuses contestations, Jean-Michel Blanquer a déjà annoncé que le masque pourra être distribué gratuitement au cas par cas aux familles en grande difficulté.
Pour sa rentrée à lui, le gouvernement veut rester cette semaine à 100% mobilisé sur les aspects sanitaires de la crise.
D'où un report du traitement de choc économique qui devait être administré dès demain, Adrien Beck.
À l'heure où le plan de relance devait être présenté demain matin, se tiendra un conseil de défense consacré au coronavirus. Pourtant, tout était prêt jusqu'au dossier de presse à distribuer aux journalistes. Un report qui donne une impression de fébrilité, déplore un macroniste. On aurait pu être à l'offensive. Là, on sera sur la défensive, sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, dit-il. Car face à une épidémie qui repart, la semaine sera sanitaire. Protocole à l'école, port du masque en entreprise, situation dans certains départements, priorité à l'épidémie. Emmanuel Macron l'a décidé. Et puis l'exécutif s'est aussi rendu compte via des études d'opinion que les Français connaissaient à peine l'existence du plan de relance. On va donc pouvoir faire monter la sauce cette semaine, espère un ministre. Jean Castex sera par exemple devant le MEDEF mercredi. Pas sûr pour autant que la semaine prochaine soit plus propice à parler d'économie, déplore un conseiller. La situation sanitaire, dit-il, ne va pas subitement s'améliorer.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, la famille Trump, le président, sa sœur, sa nièce et une affaire de micro caché qui fragilise le patron de la Maison Blanche.
Et puis, à cette heure-ci, ils font encore la grasse matinée. Les vacances ne sont pas finies pour tout le monde.
8h11, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h12 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Il va tenter de rattraper son retard dans la course électorale. Donald Trump, donné battu face à Joe Biden dans les sondages pour la présidentielle américaine du 3 novembre prochain, est la star cette semaine de la convention du parti républicain qui s'ouvre aujourd'hui.
Et ça commence plutôt mal pour le président sortant avec des propos très durs de sa propre sœur à son encontre. Le récit de Xavier Yvon aux États-Unis pour Europe 1.
Dans la famille Trump, je voudrais la sœur aînée du président, Marianne Trump Barry, 83 ans, ancienne juge fédérale.
enregistrer à son insu, écouter ce qu'elle pense de son petit frère Donald à la Maison Blanche. Ces fichus tweets, ces mensonges, oh mon Dieu, dit-elle, exaspérée, je ne devrais pas parler aussi librement, mais tout ce manque de préparation. Marianne Trump sort même un juron en évoquant son frère. Tout ce qu'il fait, dit-elle, c'est pour plaire à sa base, et la sœur du président cite en exemple les séparations de familles de migrants à la frontière. Ces enregistrements publiés par le Washington Post sont l'œuvre d'une autre Trump, Marie, la nièce du président. Elle a sorti cet été un livre à charge contre sa famille qui a créé, selon elle, l'homme le plus dangereux du monde. Et pour l'écrire, elle s'est servie de ses conversations avec donc sa tante Marianne, la grande sœur de Donald, qui dit également de lui qu'il est cruel, qu'il ne lit jamais et qu'il a triché pour rentrer à l'université. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
C'est aujourd'hui la rentrée d'Europe 1. Tous les chroniqueurs, les grandes voix, les nouveautés aussi, vous les découvrez. Mais vous nous écoutez peut-être encore en vacances.
Après tout, nous ne sommes toujours qu'au mois d'août et il n'est pas interdit de se faire plaisir jusqu'au bout de l'été. La preuve entre Avignon et Marseille où s'est rendue Caroline Baudry.
Perché sur un grand rocher, Hugo s'élance dans le vide.
Ça fait du bien, l'eau, elle est bien fraîche. On profite au max, hein, on a pas ça à Paris, nous. Il y en a, ils vont écouter ça dans le métro, ça va faire mal un peu, hein, mais bon, dans les bouchons surtout. Sur la 86.
Car la rentrée est encore loin pour cet étudiant parisien en séjour à Marseille. Comme Pascal et Daniel, basket à la main, eux cherchent le spot idéal entre les rochers aiguisés.
On a l'impression de ne plus être dans Marseille même et de se retrouver dans un lieu genre vraiment idyllique.
Et on est entre plusieurs collines, du coup c'est ciel bleu, des couleurs jaunes et vertes.
Il n'y a pas grand monde. Je suis assez satisfait de notre choix d'être parti comme ça fin août.
Des vacances en décalé pour repousser la rentrée et pas pressé de retrouver son bureau, la proximité avec ses collègues, ce Lyonnais opte pour le télétravail depuis le sud pour prolonger de quelques jours son été. Marseille, Caroline Baudry, Europe 1.
Les Calanques, ça fait un peu plus rêver que la 86, effectivement, de bon matin.
Mais on est bien ici, non? Il fait plutôt bon, on a repris, tout en douceur. Vous allez bien, François Geffrier?
Parfaitement, vous êtes insolemment bronzé, Mathieu.
Ravi de vous retrouver, ça sera ma réponse langue de bois. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année au journal de 8h, François Geffrier. 8h15 sur Europe 1. Sonia Mabrouk est avec nous. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Je dois vous avouer que j'hésite ce matin.
Vous hésitez?
Mais oui. Dois-je porter le masque durant l'interview en studio dans cet espace clos? Parce que dans une semaine, le masque sera obligatoire en entreprise sous peine de sanctions. Alors, décision légitime ou hystérie réglementaire? Mon invité, c'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
8h16, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h17 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. L'interview politique de la matinale avec Sonia Mabrouk et son invité, Elisabeth Borne, ministre du Travail.
Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Comment faire accepter les règles? Comment faire largement accepter le port du masque quand on voit, comme hier, ceux qui cassent et caillassent à des années-lumière des gestes barrières et de tout respect d'ailleurs?
Écoutez, moi je peux que condamner les débordements violents qui n'ont rien à voir avec le sport qui sont intervenus hier. Je pense que c'est important que chacun ait en tête que, quelle que soit son activité, c'est très important de respecter ces gestes barrières. C'est finalement notre responsabilité à chacun d'entre nous d'éviter une reprise de l'épidémie. Et effectivement, je pense que c'est aussi important au moment où les salariés vont rejoindre leur entreprise, après leurs vacances, qu'ils soient rassurés sur le fait qu'il y aura des bonnes règles sanitaires dans les entreprises, que ça leur donne confiance sur la reprise.
Rassurés peut-être, mais dubitatif. Pour la France qui travaille et qui se lève tôt, il y a les règles et les interdictions. Et pour les autres, Madame la Ministre?
Non, mais pour les autres, vous savez, il y a des établissements qui ont été fermés, hein, ceux qui ne respectaient pas hier les règles de distanciation. Il y a eu aussi des verbalisations. Donc les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Et en entreprise, moi je le redis, c'est important que chacun sache qu'il retourne au travail avec des bonnes règles sanitaires. Il faut qu'on concilie la protection de la santé et l'activité économique.
Alors justement, en entreprise, le port du masque sera donc systématisé, obligatoire, dès le 1er septembre dans les espaces clos et partagé. Et si on ne le porte pas, Elisabeth Borne, à ces endroits, qu'est-ce qu'on risque comme sanction?
Écoutez, moi je pense d'abord qu'il faut faire confiance aux entreprises, aux partenaires sociaux qui sont bien conscients que c'est finalement la reprise qui se joue.
Confiance, mais c'est une responsabilité pour les entreprises
aussi.
C'est
une responsabilité pour les entreprises. Alors la confiance, ça n'empêche pas effectivement que les services du ministère du Travail seront présents. Ils seront présents pour conseiller, pour accompagner et puis aussi pour contrôler le bon respect de ces gestes barrières en entreprise.
Donc il y a sanction à la fin, avertissement, ça peut aller jusqu'au licenciement.
Alors, écoutez, franchement, il peut y avoir des sanctions. Moi, je vous dis, depuis le déconfinement, les entreprises sont très responsables sur la mise en œuvre des protocoles sanitaires. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés en entreprise, plus de 7000. Et moi, j'ai vraiment confiance dans le fait que les entreprises vont s'approprier ces nouvelles
règles. On entend votre confiance, mais c'est aussi un avertissement. Vous dites attention, est-ce qu'il y a quand même sanctions ? Moi, j'imagine ce matin, un salarié, un employé, même un employeur qui vous écoute, il a envie de savoir si quelqu'un ne porte pas le masque en espace clos partagé, est-ce que ça peut aller jusqu'à un licenciement ? Est-ce que c'est une faute professionnelle ?
Écoutez, c'est une faute comme tout non-respect d'un règlement intérieur dans une entreprise. Mais je pense que chacun doit d'abord se dire que c'est sa responsabilité pour se protéger, pour protéger ses collègues, pour protéger ses proches. C'est ça le sens de ces règles et de ce port du masque en entreprise dans les espaces de travail partagés.
Mais est-ce que vous n'allez pas trop loin ? Certains se disent peut-être décision légitime sur le plan sanitaire, mais est-ce que ce n'est pas l'hystérie réglementaire ? Vous intervenez dans la vie des entreprises.
Je pense que c'est important. Moi, je vous dis que on se donne tous les moyens de ne pas devoir faire face à une nouvelle vague d'épidémie comme on l'a connue au printemps. Et cette règle de port du masque, elle participe effectivement à la protection pour éviter une nouvelle vague et donc à la reprise économique. Je pense que chacun souhaite que l'économie reparte,
bien sûr,
qu'on protège les emplois et c'est bien ce à quoi
Madame
le gouvernement s'attelle.
Pour que ce soit clair, ce protocole sanitaire en entreprise, il sera disponible quand ? Pour la visibilité.
Alors,
tout simplement.
Ce protocole sanitaire, donc moi je le redis, suite à un avis du Haut Conseil de la Santé publique du vendredi 14 août, suite aussi au constat qu'on peut tous faire que l'épidémie, le virus circule beaucoup plus, on est à 4-5 000 nouveaux cas par jour alors qu'on était à 1 000 cas en juillet, il faut des nouvelles règles. Et donc ces nouvelles règles, on a échangé avec les partenaires sociaux mardi dernier. Moi je souhaite qu'on puisse regarder les dérogations qui seront possibles à la fois pour les activités pour lesquelles c'est très pénalisant, et je pense que par exemple, sur un plateau comme ici, on voit bien que ça serait pénalisant d'avoir systématiquement un masque, aussi
donc
pour les situations.
Donc il y aura dérogation, aménagement pour certaines activités, c'est ce que vous étudiez en ce moment.
C'est ce sur quoi, vendredi dernier, on a ressaisi le Haut Conseil de la Santé publique, parce qu'il faut effectivement des règles qui protègent, il faut aussi faire preuve de bon sens, pour des activités pour lesquelles c'est pénalisant, et puis aussi quand on voit qu'on a d'autres façons de se protéger, par exemple si on est à 3 salariés
bien
dans
sûr.
100 mètres carrés, on peut imaginer qu'on peut se dispenser du port masque.
Vous n'avez pas gardé votre masque là pour cette interview en studio, dans cet espace clos, pourtant dans une semaine, normalement, si on considère tout ce que vous venez de me dire.
Et bien donc je vous confirme que nous avons ressaisi le Haut Conseil de la Santé publique et qu'on attend sa réponse vendredi au plus tard. Sur cette base-là, le protocole sera mis en ligne au plus tard lundi prochain, parce qu'il s'appliquera à partir du 1er septembre.
Avec tout ce que vous venez de nous dire, Madame la Ministre, est-ce que vous encouragez ce matin au retour sur le lieu de travail pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, ou est-ce que vous continuez à préconiser le télétravail ?
Alors on préconise, le télétravail, ça reste une très bonne solution quand on peut le faire, et tout le monde ne peut pas télétravailler, a fortiori quand on est dans des zones où le virus circule fortement, comme par exemple c'est le cas en région parisienne. Donc ça reste une bonne formule. En même temps, les entreprises nous disent aussi que c'est important d'avoir un collectif de travail, donc de pouvoir aussi revenir sur le lieu de travail. Et dans ce cas, il faut prendre des précautions particulières, notamment ce port du masque quand on est dans des espaces de travail partagés.
C'est en même temps, si je vous ai bien entendu. Un peu de ça, un peu de ça.
Écoutez, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, faire du télétravail quand on peut, revenir retrouver ses collègues parce que c'est aussi important. Et quand on est au travail dans des espaces partagés, porter le masque.
Alors le bon sens n'empêche pas l'inquiétude et même la grande inquiétude pour la situation du marché de l'emploi. Cette rentrée, vous la redoutez ? Est-ce que le gouvernement la redoute ?
Écoutez, surtout, il s'y prépare avec beaucoup de détermination. Vous savez que dans une semaine, on présentera le plan de relance.
Oui, on le sait, on sait surtout que ça a été décalé et donne le sentiment d'une impréparation.
Je pense que le plan, il est prêt, je peux vous rassurer. 100 milliards d'euros qui vont venir soutenir notre activité économique. Moi, j'ai la responsabilité de tout ce qui permettra de protéger nos emplois. Ça a été l'activité partielle. Je rappelle que 9 millions de salariés en ont bénéficié au plus fort de la crise. Et maintenant, ça va être l'activité partielle de longue durée pour sauver le maximum d'emplois. Et puis aussi, On va développer des formations pour les jeunes, pour faciliter leur arrivée sur le marché du travail. On encourage les entreprises à recruter des formations.
Vous les encouragez comment ? Avec la prime ?
Alors effectivement, depuis début août, vous savez, on a publié le décret qui met en place 4 000 euros d'aide par an aux entreprises qui embauchent un jeune de moins de 26 ans, au moins pour un CDD de 3 mois ou un CDI.
Il faut que les entreprises aient les commandes, il faut que les carnets de commandes soient fournis pour pouvoir embaucher aussi. Tout se tient, tout est lié.
Eh bien écoutez, c'est pour ça qu'il y a à la fois le plan de relance la semaine prochaine, les formations, les nombreux dispositifs. On a parlé de la prime de 4 000 euros pour accélérer l'embauche des jeunes. Je peux aussi citer les aides qu'on met en place pour accompagner le développement de l'apprentissage. 5 000 euros pour un jeune apprenti mineur, 8 000 euros sinon. Et donc, on a tous ces dispositifs qui vont favoriser l'arrivée de nos jeunes.
On peut que se féliciter, évidemment, et vous avez un discours volontariste, c'est votre rôle, mais vous vous attendez aussi, Madame la Ministre du Travail, à une très forte augmentation du chômage, malheureusement, d'ici à la fin de l'année, plusieurs centaines de milliers.
On s'attend effectivement à une augmentation du chômage, et on a déjà eu une augmentation au deuxième trimestre, mais je vous dis que ce soit avec des
augmentation
des dispositifs,
ou explosion, les mots sont importants.
Vraiment, moi, je peux vous dire que je suis déterminée à tout faire pour sauver le maximum d'emplois. Pour sauver le maximum d'emplois. Et pour ça, des dispositifs comme l'activité partielle de longue durée. Vous savez, par le passé, on a trop vu des entreprises, quand leur activité baissait de 20%, elles se séparaient de 20% des salariés. L'activité partielle de longue durée, ça permet de baisser le temps de travail des salariés. La partie qui n'est pas travaillée est prise en charge par l'État à hauteur
de 85%. Il y a des accords, comme le groupe Safran,
absolument,
qu'il a signé,
qui a pu sauver 6 000 emplois.
Est-ce que c'est vraiment une arme anti-licenciement ?
C'est vraiment une arme anti-licenciement. Et je pense que c'est assez exceptionnel en Europe, ce dispositif qu'on met en place pour permettre de garder les compétences, pour que ces compétences soient là quand l'activité économique repart.
Et pourtant, entre le 1er mars et le 16 août, 326 plans de sauvegarde de l'emploi ont été enregistrés avec 49 000 postes qui ont disparu. Voilà la réalité aussi.
Mais je peux vous dire que mes équipes, moi-même, avec détermination, on va discuter avec les entreprises pour qu'elles se saisissent de tous ces outils qui permettent de préserver nos emplois.
C'est important ce dispositif, ces accords d'activité partielle de longue durée. Tout le monde y a droit. Est-ce que ce matin, clairement, Madame la Ministre du Travail, vous encouragez des entreprises, des groupes à y avoir recours ?
Ah, moi, j'encourage vraiment toutes les branches professionnelles dont l'activité va être en dessous de ce qu'elle était avant la crise à se saisir de cet outil. Vous savez, la métallurgie a signé un accord. Le Syntec, donc l'ingénierie, le commerce de gros sont en train de discuter d'accords de ce type. Et je crois que c'est vraiment la meilleure façon de sauver des emplois et de garder les compétences. On peut, en plus, l'État va financer la formation des salariés qui seront en activité partielle de longue durée.
Jusqu'à quelle date ? Fin 2021 ?
Alors, jusqu'à la fin de l'année, on peut signer ces accords et on peut les appliquer pendant 2 ans. Donc, ça donne aux entreprises des marges de manœuvre pour garder les salariés et les former pour que les entreprises soient plus fortes en sortie de crise.
On va conclure quand ? Quand retrouvera-t-on un niveau de chômage d'avant-crise pandémique ? Est-ce que vous le savez, très sincèrement ? Est-ce qu'on peut dire ce matin, on ne sait pas, vu la situation sanitaire, économique, évolutive ?
Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, mais moi je vous dis, on a de nombreux outils pour sauver des emplois, pour former les jeunes, pour accompagner les salariés des secteurs en difficulté vers ceux qu'on va dynamiser avec le plan de relance. Et c'est bien mon objectif, sauver le maximum d'emplois.
Et on va suivre évidemment tout cela. Merci Elisabeth Borne d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Bonne journée à vous et bien sûr à nos auditeurs à l'écoute.
Merci Sonia Mabrouk, ravi de vous retrouver. L'interview politique tous les matins sur Europe 1, toute l'année, 8h15, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, un nouveau journal avec Hélène Zélani, puis vos rendez-vous dans Europe Matin, la planète, l'environnement, avec Fanny Agostini bien sûr, et puis votre rendez-vous santé avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Consultation dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Ravi de vous retrouver, je le dis franchement, bon début de journée à tous, bon réveil, et je vous souhaite une merveilleuse rentrée. Nous rentrons tout juste de vacances, vous retrouvez des voix que vous connaissez, vous retrouvez quelques nouveautés, et puis j'insiste, les nouveautés aussi tout au long de la journée, par exemple les rendez-vous d'info, midi et demi, Patrick Cohen, 18h, Julien Bugier. On est là pour vous informer, vous écouter, vous divertir aussi au long de la journée, puis vous le savez, pour vous raconter ce monde qui change. 8h31 déjà, nous retrouvons Hélène Zélani pour une nouvelle édition. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il manquait un truc là. Devant Neymar, faut le dire, il a été invisible. Mbappé transparent, pas juste sur les passes. C'est dommage.
Les deux grandes stars du PSG aux abonnés absents, Neymar et Mbappé, n'ont pas franchement brillé hier soir face au Bayern. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Un torrent d'injures à connotation raciste. Le nouveau maire de Givors dans le Rhône porte plainte après avoir reçu une lettre anonyme d'une grande violence. Vous entendrez son incompréhension. Dans ce journal, les inquiétudes des parents et des enseignants à une semaine de la rentrée sur fond de Covid. Et puis, des chaînes humaines pour dénoncer l'élection du très contesté président biélorusse Loukachenko, notamment en Lituanie.
Juste après ce journal, un point météo avec Laurent Cabrol. Votre rendez-vous santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. On va vous aider à recaler les enfants à une semaine de la rentrée scolaire. Il est 8h32.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Le PSG en rêvait de cette finale de la Ligue des Champions, de ce premier titre pour le club tout juste cinquantenaire. Ses espoirs se sont envolés à la 59e minute quand Kingsley Coman, justement formé à Paris, a marqué le but de la victoire du Bayern.
Sixième sacre pour le club allemand et une énorme déception pour des millions de supporters, mais aussi pour les joueurs. On n'oubliera pas les larmes de Neymar.
Le Brésilien a sans doute réalisé à quel point il était passé à côté du match. Idem pour Kylian Mbappé, deux stars qui ont donc déçu hier soir, comme nous le raconte l'envoyé spécial d'Europe 1 à Lisbonne, Simon Rubin.
Il va lancer dans la profondeur. Neymar, Neymar, oh l'arrêt, l'arrêt, incroyable arrêt de Neuer. Mbappé, mais non, Kylian, Kylian, faut tirer là-dessus. Il faut mettre plus
on
de
attendait
puissance.
De Neymar et Mbappé qu'ils propulsent l'équipe vers un titre historique. On attendait des deux stars qu'elles soient à la hauteur des rêves parisiens. On attendait d'eux la lumière. Et ils ont été fantomatiques, quasiment invisibles, éteints par une défense bavaroise parfaitement organisée. Neymar et Mbappé sont passés à côté de leur finale. Au talent individuel des deux Parisiens a répondu l'organisation collective des Allemands. Et les dribbles ratés de Neymar en fin de match traduisent la frustration, l'impuissance du joueur qui veut porter seul son équipe. C'est peut-être la dernière leçon que les deux prodiges avaient besoin d'apprendre ensemble. En football, on ne marque jamais l'histoire tout seul. Lisbonne, Simon Rubin, Europe 1.
Et pour certains supporters, la déception s'est muée en violence. Des incidents pendant et après la rencontre autour du Parc des Princes et dans le secteur des Champs-Élysées, voitures incendiées, vitrines cassées.
Au total, 148 personnes ont été arrêtées et plus d'une centaine placées en garde à vue. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dénonce, je cite, la sauvagerie de certains délinquants.
Il précise que 16 membres des forces de l'ordre ont été blessés.
8h33 sur Europe 1. 4 pages ordurières, insultantes, raciste. Le nouveau maire de Givors dans le Rhône, Mohamed Boudjelaba, a porté plainte après avoir reçu cette lettre anonyme.
Et au micro de Diane Berger, il fait part de son dégoût.
Monsieur le maire, sale bougnoul, on va te crever, on va te griller comme une merguez, ton habitation ça va faire boum. Sur 4 pages, c'est un vomi sans nom. Il y a des gens de l'ombre qui attisent la haine, qui n'acceptent pas que je sois maire. Je suis un citoyen français, aujourd'hui qui a des responsabilités politiques. Quand vous essayez tous les jours au quotidien de vous battre pour que les rues soient propres, pour embellir la ville, pour essayer de ramener des entreprises dans votre ville, et puis que vous tombe un courrier comme ça dégueulasse, les bras m'en tombent, et je me dis, et ça ne fait que cette semaine que tu es aux manettes. Est-ce que j'ai envie de tenir 6 ans? Je sais pas. C'en est flippant de se dire, il y a des gens ou une personne qui a pris le temps de faire ça et mon action politique, on peut pas la mesurer. Ça fait 7 semaines que je suis là. Je pensais pas que ça allait arriver si tôt, quoi.
Mohamed Boudjelaba qui a reçu le soutien du gouvernement. Une enquête est ouverte pour retrouver l'auteur de la lettre. Plus de 400 verbalisations pour non-port du masque hier soir à Paris dans le secteur des Champs-Élysées. Plus de 4500 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. Une trentaine de nouveaux foyers de contamination. 7 départements sont désormais classés en vulnérabilité élevée. Bouches-du-Rhône, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Sarthe et Hérault ainsi que la Guyane.
La rentrée scolaire, c'est dans une semaine. Jean-Michel Blanquer s'apprête à rencontrer les syndicats d'enseignants et de chefs d'établissement.
Et face aux craintes sanitaires, les doléances ne manquent pas. Frédéric Rollet, secrétaire général du syndicat SNES-FSU, voit le ministre de l'Éducation cet après-midi.
On est dans des lieux évidemment de concentration importante. Les élèves bougent beaucoup, donc ils changent sans cesse de salle. C'est donc très difficile de savoir quel était le traçage, par exemple, en cas de détection d'un cas de Covid. Le ministre s'est déjà exprimé sur le port du masque, mais on a d'autres précautions à prendre sur l'aération des locaux, sur le non-brassage des élèves, les parties communes d'établissement, etc. Et on a évidemment la demande aussi d'essayer de pouvoir avoir des groupes le plus possible pour éviter d'entasser 35 élèves dans une classe, et puis qu'on ait un discours qui ne soit pas, comme ça a pu être le cas au printemps dernier, truffé de contradictions, hein. Des injonctions, un ordre, puis un contre-ordre. Là, on tient vraiment à ce qu'encore une fois, il y ait un protocole qui soit vraiment clair pour tout le monde.
La représentante du syndicat d'enseignants SNES FSU.
L'image est frappante. Le président biélorusse Loukachenko arrivant hier soir dans sa résidence officielle à Minsk, en gilet pare-balles, Kalachnikov à la main. Symbole fort, alors que tout près de là, ses opposants manifestaient une nouvelle fois pour protester contre son élection.
Des opposants qui ont d'ailleurs reçu le soutien de leurs voisins, notamment en Lituanie, où des dizaines de milliers de personnes ont formé une longue chaîne humaine. Écoutez le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini.
Sans aucun signal, comme si c'était un devoir, les doigts des manifestants s'entrecroisent au moment où résonne le chant du changement. Sur 35 km, les mains s'unissent jusqu'aux portes de la Biélorussie, là où se trouve Sabina, tout près du pays qu'elle a quitté il y a un an, si loin des opposants de Minsk dont elle loue le courage.
J'espère qu'ils sentent notre soutien, qu'ils sentent qu'on les aime si fort, qu'on apprécie tellement ce qu'ils font. J'ai beaucoup d'admiration, qu'ils continuent à manifester. Tous les jours, je prie pour eux pour qu'ils trouvent la force de continuer.
Les opposants biélorusses en exil sont largement soutenus par les Lituaniens. Carolina n'hésite pas un instant lorsqu'il s'agit d'agiter le drapeau rouge et blanc de ses voisins contestataires.
Il y a 30 ans, notre pays était dans la même situation. Et je sais ce que les gens ressentaient à l'époque et je comprends ce par quoi ils sont en train de passer. Donc il n'y a pas d'autre choix que de les soutenir.
Juste à côté d'elle, un designer biélorusse souhaite s'exprimer, mais finalement les mots lui manquent pour expliquer sa présence. Comme un fond de culpabilité de vivre libre à quelques encablures de certains de ses proches gouvernés par la peur. Medinka, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Près de 240 000 habitants évacués en Californie face à la violence des incendies de forêt. 138 000 hectares ont déjà été détruits. Le gouverneur demande l'aide du Canada et de l'Australie. Et puis sachez qu'en France, un incendie a détruit 50 hectares à Vitrolles, près de Marseille. Le feu est fixé, mais les pompiers restent mobilisés. Un feu qui pourrait avoir pris à cause d'une cigarette jetée depuis l'autoroute A7.
Merci beaucoup Hélène Zelani. C'était le journal. À 9h, une nouvelle édition tout à l'heure avec Sophie Echen. Il est 8h38.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin, partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
On profite encore de l'été, hein ? Même pour ceux qui reprennent le boulot, qui reprennent le chemin du travail, Laurent Cabrol.
Côté température, oui, certainement. Nous sommes entre 22 et 31 degrés. Là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus estival. Enfin, en tout cas, dans les normes de saison, comme l'on dit. Mais la météo d'aujourd'hui, c'est une affaire de dégradation. Alors d'abord, ça se dégrade un petit peu près des côtes de la Manche, la Haute-Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, où nous avons dans ces contrées un peu de pluie et surtout beaucoup de nuages. Si vous allez un petit peu plus au sud, à 100 km au sud des côtes de la Manche, eh bien là, vous avez beaucoup de nuages aussi, mais cette fois sans pluie, notamment la vallée de la Loire, la région parisienne, je pense qu'il ne pleuvra pas, la Champagne et les Ardennes. Et puis ensuite, cette dégradation se dégrade, donc elle s'améliore. Je sais pas si on est chez.
Donc, ça, c'est au programme de maths de ceux qui reprennent. Si la dégradation se dégrade, c'est que ça s'améliore.
Voilà, ça s'améliore avec des éclaircies. Et puis tout part en dégradé vers le sud, parce que plus on descend, et plus il fait beau. Voilà.
Eh bien, voilà.
Donc c'est aussi simple que cela, avec des températures, comme vous l'avez dit si bien, estivales.
Merci mon cher Laurent Cabrol. Il est 8h39. Et c'est un nouveau rendez-vous dans Europe Matin, juste après le journal de 8h30. Toutes les réponses à vos questions de santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Toutes les bonnes choses ont une fin donc et les vacances scolaires sont bientôt terminées. Alors sauf qu'à une semaine de la rentrée, les parents se posent tous la question. Comment vais-je recaler le sommeil des enfants qui se sont couchés tard, parfois très tard, tout l'été?
Oui, c'est vrai, les vacances scolaires se terminent bientôt, mais celles des parents vont commencer. On va pouvoir enfin remettre nos enfants à l'école et donc on va pouvoir être un peu tranquille et soufflé, sauf qu'évidemment, avec le confinement plus les vacances, eh bien certains ont pris de mauvaises habitudes et ont décalé l'heure de coucher, mais il n'est pas trop tard, il reste une semaine pour les recaler. Alors tout d'abord, il va falloir reprendre les rituels de coucher. Vous savez, c'est toutes ces petites habitudes qu'on reproduit le soir, juste avant de dormir, et qu'on doit toujours faire dans le même ordre. Ces rituels doivent rassurer l'enfant, mais surtout rester bref. Plus un enfant grandit, moins ce rituel doit durer longtemps. Comptez 10 minutes maximum et on évite de lire la petite histoire de Choupi au lit. D'ailleurs, Choupi fait pas mal de bêtises, donc je vous le déconseille. Le lit doit être sanctuarisé. C'est un espace pour dormir et pas de divertissement. Et puis, souvenez-vous, Mathieu, pendant le confinement, quand on avait épuisé tous les jeux et tous les coloriages dès la deuxième semaine, on a confié nos enfants à de nouveaux amis, les tablettes et les ordinateurs. Sauf qu'ils sont associés à un retard d'endormissement, à la multiplication des réveils et puis un sommeil de médiocre qualité. prudence aussi avec le temps passé devant la télévision. On sait que les enfants qui regardent la télé 2 heures par jour pendant le jour de semaine et le week-end ont une durée de sommeil diminuée et un coucher et un lever plus tardif. Et puis, attention à la fausse bonne idée qui consiste à supprimer la sieste. On pourra se dire, s'il ne fait pas la sieste l'après-midi, il va dormir plus tôt.
Je témoigne.
Eh oui, sauf qu'en fait, les enfants vont être excités, épuisés en fin de journée. Ils vont se transformer en véritables petits démons et le sommeil va être encore plus compliqué. Enfin, n'hésitez pas à les fatiguer ou en tout cas à leur faire faire de l'activité physique. C'est 1 heure par jour, tous les jours. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, donc je pense qu'on peut les écouter.
Allez, randonnée de 20 km tous les jours jusqu'à la rentrée. Alors, ces conseils, ils sont valables, Jimmy, plus sérieusement, pour les plus petits. Est-ce que vous avez des conseils pour les plus grands, les ados?
Oui, il n'est pas trop tard. À une semaine, vous pouvez les décaler au niveau du coucher de 15 minutes tous les jours. En 4 jours, vous avez gagné 1 heure. En 8 jours, vous avez gagné 2 heures de sommeil. Et puis si vous continuez comme ça encore quelques jours, vous pourrez les coucher à 18 heures avec les poules. Le sommeil, c'est comme une finale de Ligue des Champions. Ça se prépare. Il convient de diminuer petit à petit les stimulations. Avant le coucher, 1 heure avant, on baisse la lumière. On fait une activité relaxante. On écoute un podcast comme l'émission de Mélanie Gomez à 15 à 16 dans son rendez-vous. Et puis on n'oublie pas les rituels qui peuvent être faits de façon autonome. La sieste, c'est 20 minutes maximum et surtout pas en fin de journée. Pas de discours moralisateur. Si on n'y arrive pas, on ne leur dit pas « tu n'arriveras à rien dans la vie, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Je crois que vous avez gagné 1 heure de sommeil, Mathieu, vous allez très bien. Et puis demain, pour vous Mathieu et les supporters parisiens, je traiterai du syndrome de cœur brisé. On verra comment faire pour panser les plaies de cette finale de Ligue des Champions.
Ça existe vraiment le syndrome du cœur brisé. On va en parler demain matin avec le docteur Jimmy Mohamed. Merci Jimmy et bon courage à vous. Hein. Vous avez compris, sauter la sieste, ça n'arrange rien. Ils sont plus fatigués et vous aussi. 8h42. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu, très contente de vous retrouver.
Quel plaisir de vous retrouver en direct avec nous le matin sur Europe 1 dans votre ferme de Boissey en Haute-Loire. On s'intéresse à la planète, à notre environnement. En cette rentrée, Fanny, une actu a attiré votre attention. C'est le retour des néonicotinoïdes pour la production de la betterave, ces insecticides tueurs d'abeilles. La betterave sucrière, ils avaient été totalement supprimés il y a 4 ans.
Oui, tout à fait. Et parler de rétropédalage, c'est vraiment un terme gentillé pour dire que l'on fout tout en l'air, Mathieu. Les néonicotinoïdes, produits chimiques, vous l'avez dit, utilisés par l'agriculture intensive pour lutter contre les ravageurs, viennent d'être remis au goût du jour pour la culture de betteraves. Et ce qui est déconcertant dans cette histoire, c'est le prétexte invoqué par la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, qui dit que l'hiver doux a causé la recrudescence des pucerons. Du coup, à titre exceptionnel, on autorise la pulvérisation de ce produit nocif, mais cette autorisation ponctuelle risque de devenir systématique avec le changement climatique.
Des hivers plus doux et donc forcément plus de pucerons.
Mais oui, c'est un cercle infernal. Mais l'ironie encore plus folle dans cette affaire, c'est que les néonicotinoïdes dégomment autant les pucerons que les abeilles et les guêpes. Alors que, devinez quoi, les guêpes sont de féroces prédateurs des pucerons. Ce qui signifie qu'au lieu de laisser opérer tranquillement le processus naturel de la chaîne alimentaire, on préfère utiliser la chimie qui, in fine, va aggraver le problème de départ avec des pucerons qui pourront se répandre davantage.
Alors il y a aussi les méthodes de production des betteraves qui fragilisent les cultures.
Ben oui, comme toute grosse production en monoculture, c'est-à-dire le même type de végétaux plantés chaque année sur une immense superficie, les récoltes sont vulnérables. Alors que si l'on intégrait d'autres plantes, comme par exemple les œillets d'Inde, une fleur efficace pour détourner les pucerons, les betteraves sucrières seraient alors moins attaquées. C'est en clair le productivisme, encore une fois, qu'il faut remettre en cause pour faire transiter nos cultures vers plus de diversité et donc plus de résistance. Et puis je vais vous dire, si à terme il y a moins de production de betteraves à sucre, c'est tant mieux, car il y aura en contrepartie plus d'abeilles et donc plus de miel.
Merci Fanny Agostini, quel plaisir de vous retrouver avec vous. On a rendez-vous tous les matins avec notre environnement, notre planète et on va vous retrouver tous les jours en direct depuis votre ferme de Boissey en Haute-Loire, 8h44.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Normalement, j'ai même pas à le dire. Vous savez ce qui va se passer dans quelques instants. Le meilleur de Nicolas Canteloup. On va sourire, 8h45.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h47 sur Europe 1. On les retrouve, Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque du direct aujourd'hui, Mathieu. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Best of. Le Figaro annonçait cette surprenante nouvelle hier. Emmanuel Macron aurait eu l'idée de démissionner afin de se faire réélire dans la foulée. Mais l'Élysée a démenti. Hein.
Ah.
française, français.
Ah, c'est lui.
Mais cher, c'est quoi ça, c'est lui? Il est en train de faire une déclaration solennelle et elle arrive et me fait, c'est lui. Vous savez comment je m'appelle?
Oui.
Française, français. Bon, arrêtez les trompettes derrière. Rémi. Mes chers compatriotes, moi, François Hollande, président de la République de 2012 à 2017, j'ai décidé, en avec conscience et avec responsabilité, d'être candidat à la prochaine élection présidentielle de lundi matin.
Mais attendez, monsieur. Mais de toute façon, l'Élysée a démenti cette histoire.
Il a démenti. Vous l'avez démenti. Moi, je sais pas. Effectivement, de toute façon, il n'a pas le choix. Hein, il doit partir, le gamin est nul, franchement. Bah, regardez-moi, tous ces chômeurs, cette récession, le bilan, lâchons le mot, le bilan est piteux. Du verbe piteux. Je pite, tu pites, nous pitons. Alors, dimanche soir, il pose sa dème. Comme le veut la procédure, et lundi on laisse faire les pros.
Hein ? Ah bon ?
Pardon, ah, bonjour.
Ah, Ségolène Royal.
Oui. Merci pour les trompettes et le tubo. Française, français, oui, mes chers compatriotes, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de lundi midi.
Non mais attendez tous là, même si pris d'un coup de folie il démissionnait, bah, elle n'aura pas lieu lundi l'élection, qu'est-ce que vous racontez?
Oui, et puis de toute façon, Ségolène, tu arrives trop tard, hein, en termes de folle dingue loup, Afida Turner a déjà présenté sa candidature, je te signale, tu fais doublon. Hein.
Oui, bien sûr, oui, c'est ça, ça te fait rire. Et ben toi, en termes de comique qui fait rigoler tout le monde, tu vas marcher sur les plates-bandes de Bigorre.
Oh,
madame Julie, ça m'avait manqué de retrouver une belle ambiance de campagne.
Le possible remaniement à venir pose un problème. Édouard Philippe et Emmanuel Macron veulent virer des femmes, mais trop de femmes. Ça pourrait rappeler les jupettes de 95. Bonjour Alain Juppé.
Oui, bonjour madame Julie, bonjour monsieur Béliard. Écoutez, bonjour à votre sympathique équipe. Et bravo, j'ai envie de dire à Édouard, mon doudou, mon philo, mon fils spirituel.
Alors on rappelle qu'en 95, vous aviez renvoyé 8 femmes du gouvernement en 24 heures.
Ah, vous avez une bonne mémoire. Oui, c'est un de mes faits d'armes. Oui, j'étais... Ah, mais j'étais chaud, hein, à l'époque.
Chaud.
Oui. Oh là là, madame Julie, on rajoute des textes en plus. Non seulement les notes, mais on rajoute. C'est bien, on fait des petites astérix. Écoutez, non, j'étais chaud, j'avais dit. Et hop, les femmes, les bonnes femmes, ça dégage. Et dire qu'à l'époque, je pensais m'être fait avoir. J'avais accepté une poignée de mes mères en tailleur pastel dans l'équipe. Et puis, au bout de 3 semaines, évidemment... c'était le bordel. Hein. Mais imaginez si j'avais eu Agnès Buzyn, des gros calibres comme Muriel Pénicaud, Sibeth Ndiaye. Ah ben là, je partais plutôt que prévu au Canada, je vous dis pas.
Et vous arrêtez la misogynie, là, attention. Hein.
Ben non, bah, mais écoutez, enfin... Julie Allon, tout ça est bon enfant. Ce n'est pas de la misogynie, c'est de la lucidité. Et dire qu'à l'époque, je gueulais parce que j'avais Françoise de Panafieux et Anne-Marie Drac. Mais si on m'avait donné Marlène Schiappa et Nicole Belloubet, oh la vache, là, je faisais un burn-out direct.
Donc vous donneriez quel conseil à Édouard Philippe alors?
Ah ben écoute, oui, je dois m'écouter ce matin. Écoute, mon doudou, mon Édouard, mon philo, mon fils spirituel, j'ai envie de te dire, démerde-toi, hein, parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, si tu en vires une seule, tu m'entends bien, on va te pendre par les testicules. Donc je te dis, courage.
Merci Alain.
Je vous en prie, belle analyse politique.
Le gouvernement a annoncé un assouplissement du déconfinement dans les EHPAD. Les visites de plus de 2 personnes à la fois seront possibles, à condition qu'elles se passent ces visites en extérieur. On va appeler un EHPAD tout de suite.
Maison de retraite des Pétunia de Maison Alfort. Christiane, à votre écoute, bonjour. J'écoute, ne quittez pas, je fais patienter en musique.
Bonjour. Je m'appelle Jean Calment.
Oh non, c'est Jean Calment.
My name is Jean Calment.
Je suis né le 21 février 1865 à Arles.
I was born in Arles on February the 21st in 1875.
Nicolas, non. Merci d'avoir patienté en musique. Christiane, à votre écoute, j'écoute, que puis-je faire pour vous?
Bonjour Christiane, c'est Europe 1 là. On voulait savoir comment le déconfinement se passait dans les EHPAD.
C'est Madame Julie, oui. Je vous ai reconnue.
Tant mieux.
Ah bah écoutez, ça va, c'est gentil. Écoutez, dans le déconfinement se passe bien. On a sorti nos pensionnaires de leur housse. Non. Alors on a pris toutes les précautions, hein, parce qu'on a vraiment entendu tous les messages du gouvernement. Donc on les a aspergés au monsieur propre antibactérien. On leur a bien brossé les dents au sif ammoniacal. Ah vraiment, si on vient les voir, on risque plus rien. Non vraiment, je crois qu'ils sont vraiment aux normes là. Ils sont nickel, comme disent les jeunes.
Oui. Mais dans l'autre sens là, vous ne craignez vraiment plus de contamination s'ils ont des visites de plus de deux personnes?
Oh non, non, vous savez, il n'y a jamais plus de deux personnes qui viennent les voir. Oh oui, oh non. Vous savez, une maison de retraite, il ne faut pas se leurrer, on ne croule pas sous les visites. Hein. C'est... Ah, mais c'est cruel, ah, c'est oui. Comme ça, il faut dire les choses, hein, parce qu'on vous dit beaucoup de choses, fleurs bleues et tout. Non, ça, il n'y en a pas beaucoup de visites.
Mais vraiment, il y a aussi peu de visites que ça dans les EHPAD?
Oh oui, oh, ben, vous verrez l'année prochaine. Non, bon. Non, quand...
Ah, d'accord, je m'en vais tout de suite, alors.
Quand votre petit vétérinaire viendra vous soigner, votre petit Antoine qui quittera le zoo de Blauval à contre-cœur, qui viendront vous voir. Non, non, vous verrez. Non, non, vous aurez du temps libre, il ne viendra pas tous les week-ends. Non, non. Ceci dit, je suis mauvaise langue. Hein. On a des demandes quand même d'enfants qui veulent passer avec un notaire souvent. Oui, pour faire signer des papiers à nos pensionnaires pendant la sieste. Ah oui. Il y en a qui ont loupé le coche avec mamie avant le coronavirus, donc ils préfèrent vraiment tout verrouiller avec papy avant la canicule.
L'Allemagne reconfine. Un foyer d'infection a fait son apparition et pourrait faire flamber l'épidémie. L'Allemagne devrait donc voir arriver cette nouvelle vague. On est en ligne avec Angela Merkel. Ça a l'air comme un libus.
Ah, ils sont taquins à la régie. Ils m'ont mis le générique de Alerte à Malibu. C'est vrai que j'attends la deuxième vague. Dans mon maillot de bain rouge.
Oh, magnifique, magnifique.
Je suis un peu la Pamela Anderson.
Oui, 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 oui.
Enfin, moi, c'est plus Pamela Calberson.
Oui. C'est une marque de camion.
Oui, il faut le dire, parce que sinon on ne comprend pas la femme et c'est tout de suite moins drôle si on ne sait pas que Calperson, c'est des camions.
Alors, Angela, le foyer d'infection, c'est dans une région de l'Allemagne qui s'appelle la Rhénanie du Nord-Westphalie.
Voilà, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Tout le monde connaît la Rhénanie du Nord-Westphalie. Non. C'est très touristique. C'est dans la ville de Reda-Windenbrook. Ah oui. Tu connais, Mathieu?
Oui, c'est à gauche, après la poste.
Voilà, tu vois la ville de Gunterschloss. Tu prends la bretelle direction Kukischmutz. Tu continues sur Frantenkrucht. Tu prends la bifurcation sur Schuttenflart. Ouest, par la Est ou Sud. Non. Et tu arrives sur Windenbrook Centre.
D'accord, parfait. Alors, la
version... Mon pic et notre sketch, là. C'est notre sketch à nous,
un petit peu, oui, sur les noms de villes, ouais, c'est tout ça. Oui, oui, oui.
C'est du plagiat, ah, ça bah, se fait pas.
Alors,
oh,
Angela.
Pardon, monsieur Richis.
L'affection vient du principal transformateur de porc du pays, de ses abattoirs, donc. Hein.
Je suis... c'est les abattoirs, les porcs. Je suis désolé pour les millions de Français qui rêvaient et pour l'été... et de visiter des abattoirs de cochons en Allemagne.
Ah oui,
ça ne sera pas possible cette année. Tiens, en parlant de petites cochons...
Quoi?
Oh, Angela!
Oh non!
Oh, je suis tellement déçue, Angela!
Oh, Nicolas Barré, bonjour!
Ouais, bonjour, moi qui rêvais de ces vacances en Allemagne. J'ai une peau de roue au-dessus de 12 degrés, je prends même pas de coup de soleil, je prends des cloques directement.
Non.
Je cloque. En tout cas, vous êtes belle, Angela, déguisée en Père Noël. Oh non! Mais c'est pas les rouges. Non, je suis déguisée en Pamela Anderson.
Oh là là, bon, bah écoutez, on va vous laisser tous les deux. Hein.
C'est le volume qui change.
Bravo, bravo Nicolas Canteloup, que l'on va retrouver, vous le savez, en direct avec des revues de presse inédites. En direct avec Julie, bien sûr, qui est
oui,
avec nous
dès
ce
lundi,
matin.
Hein, lundi
dès
prochain.
Lundi prochain. Dès lundi prochain. En attendant, la revue de presse en best-of tous les matins, parce qu'on ne s'en lasse pas. 8h57, il est là, vous le savez. Philippe Vandel, Culture Média, c'est la matinée qui continue. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour Julie. Et c'est la saison 2 de Culture Média. Et comme son nom l'indique, toujours de la culture, des médias. Il y aura plein de nouveautés, des petits nouveaux, notamment Bertrand Chamerois et Varrock. Notre info média du jour, c'est le succès phénoménal de Society qui avait consacré deux numéros à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Les ventes du magazine sont envolées au point qu'il y a eu rupture de stock, ce qui n'était pas arrivé depuis l'affaire Charlie Hebdo. Franck Hanez, le patron de Sopress, sera avec nous pour en parler. Notre invité média, c'est Laurence Ferrari qui a fait sa rentrée tout à l'heure, il y a quelques minutes sur CNews. Et en plus de son émission, c'est elle qui remplace désormais Jean-Pierre Elkabbach dans l'interview politique. Et puis notre invité culture, c'est l'écrivain franco-marocain Tan Benjelloun pour son dernier ouvrage, La philo expliquée aux enfants. C'est pas au PUF, c'est chez Gallimard Jeunesse.
Merci beaucoup Philippe Vandel. La matinée continue avec vous jusqu'à 11h sur Europe 1, bien sûr. Demain matin, une nouvelle matinée à 5h. Sébastien Krebs pour vous réveiller avec toute son équipe. Moi, je serai là en direct dès 7h, évidemment. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.